L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, on continue notre série sur les finances. On a vu déjà pas mal de choses. C'est la cinquième soirée qu'on fait sur le thème des finances. Et on avait parlé d'un verset important, un verset de fondation, c'est dans Agé au chapitre 2 et au verset 8, où Dieu parle et dit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Et on a beaucoup parlé à propos de changer nos façons de penser par rapport à l'argent et d'être vraiment ouvert par rapport à ce que Dieu dit concernant les finances. Et il faut vraiment avoir ce cœur ouvert par rapport à l'enseignement qu'on peut recevoir, parce que c'est clair que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, elle nous amène à des changements. Et quand la Bible dit que quand on regarde à la parole de Dieu, on se voit comme dans un miroir. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas bien, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais en toute chose, c'est vraiment important de regarder à la parole et d'avoir un cœur ouvert à cette parole. Et je crois, je suis persuadé que si on a un cœur pour l'obéissance et si on a un cœur pour la parole de Dieu, Dieu peut vraiment nous amener dans des sphères et dans des stades au niveau des finances où on ne manque de rien, selon 1 Corinthiens 9, et où on est tellement pourvu qu'on peut être une source de bénédiction. Et je ne sais pas si c'est votre cœur, mais je crois que ça se développe en chacun d'entre nous, c'est de devenir vraiment une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la dîme, on va parler aussi des offrandes, on va parler de diverses choses. Et pour faire un retour un peu plus rapide, en tout cas que les dernières fois, on avait parlé de la volonté de Dieu concernant les finances, entre autres au travers de Corinthiens 9. On avait expliqué que l'argent n'était pas sale, que ça appartient à Dieu, qu'on est des gestionnaires et que Dieu veut que dans cette vie, on puisse gérer nos finances comme de bons gestionnaires, de bons administrateurs. Donc l'argent ne nous appartient pas. On a dit qu'on ne devait pas regarder à l'homme pour recevoir nos finances, ni avoir les directeurs ou les chefs d'entreprise comme ceux qui pourvoient à nos besoins, mais vraiment que notre source soit en Dieu. On avait parlé de la vision de l'argent, de la valeur de l'argent. On a vu que l'argent n'avait pas la même valeur pour tout le monde. Et après, on avait vu les répulsifs de la prospérité, donc des choses qui éloignent la prospérité. On parle de prospérité financière, mais rappelez-vous que la prospérité, on l'a dit, ce n'est pas l'argent. La prospérité peut venir de bien des façons. Vous pouvez être sur une île déserte et avoir tout ce qu'il vous faut sans avoir un seul dollar en poche, parce que vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vivre, vous avez de quoi faire vivre votre famille. Donc, prospérité n'est pas égale à argent. Et ça, faut vraiment changer ça dans nos têtes. C'est quelque chose d'important aussi par rapport à nos mentalités. Et on a vu que la première chose qui éloignait la prospérité, c'est les inquiétudes. Bien sûr, Jésus a parlé de cet exemple, hein, ne vous inquiétez pas en 10 ans. Et si on parle, on va construire une atmosphère dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre vie financière qui sera en fonction de ce que nous allons dire. Donc la parole de Dieu nous exhorte à parler bibliquement, à parler d'un point de vue divin et en fait à parler de la même façon que Dieu concernant nos finances. Donc c'est important de ne pas s'inquiéter en 10 ans parce qu'effectivement l'inquiétude va au bout d'un moment s'exprimer, de ne pas non plus extrapoler les choses, de ne pas s'agiter, mais comme dit Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Donc là on fait face à des besoins parfois, on les remet au pied du Seigneur et là on commence à louer Dieu et on commence à entrer dans cette prière de supplication qui va en fait où on va être inspiré par le Saint-Esprit à prier d'une façon divine. L'amour de l'argent, c'est bien sûr quelque chose qui va éloigner la prospérité dans nos vies. On a parlé aussi de l'orgueil. Il y a des choix qui sont faits et des choix financiers, des achats financiers qui sont faits par l'orgueil, mais aussi par l'égoïsme. Et on avait vu que c'était un signe de la fin des temps, l'égoïsme, mais aussi la convoitise. Et la convoitise, on a vu que ça amenait beaucoup de gens à faire des achats qui faisaient pâtir leur famille, qui amenaient toutes sortes de problèmes. Et parfois, lorsque par convoitise, on s'est acheté quelque chose de cher, que ce soit une maison, que ce soit des biens, parfois, on va mettre une longue période à se relever. Donc, c'est vraiment important de ne jamais être dirigé par la convoitise dans nos finances. Une chose aussi qui va éloigner notre prospérité, c'est bien sûr les dettes. La Bible nous parle des dettes. Et rappelez-vous que le mot « intérêt », ça veut dire bibliquement « se faire mordre ». Donc c'est important de faire attention aux dettes et aux prêts, puisque quand on parle de prêts, on parle de dettes. La Bible dit de ne rien se devoir les uns aux autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc les dettes, si on a des dettes, et parfois on en a entre chrétiens, puisqu'on est là pour s'entraider, c'est important de les régler, et de les régler le plus rapidement possible. On ne peut pas vivre comme si elles n'étaient pas là, il ne faut pas non plus devenir complètement fou avec ça, mais il faut que ce soit quelque chose qu'on règle petit à petit dans nos vies. Et une chose qui va nous aider, on avait parlé des budgets. On a vu qu'il y avait des applications qui pouvaient nous aider, on a dit que c'était important, on a vu que zéro budget égale zéro progrès, donc c'est important d'établir des budgets. On a vu qu'il y avait des façons aussi de baisser nos charges parfois, donc de budgétiser, d'économiser aussi parfois. On ne veut pas économiser forcément, comme je l'avais partagé, sur notre nourriture ou des choses importantes de la vie, mais il y a des moyens d'économiser peut-être ici un peu là, sur le cellulaire, sur un abonnement, sur un taux d'hypothèque, sur toutes sortes de choses. On avait vu que les soldes ou les périodes comme ça où il y a des promotions ou des rabais, c'est pas forcément une période où on va gagner de l'argent, mais puisqu'on est dans une société de consommation, on sait que les choses sont là pour nous faire acheter. Et c'est pas parce qu'on achète à moins 75% qu'on fait des affaires, on en avait parlé, puisqu'en fait, s'il n'y avait pas de promotion, on n'aurait peut-être même pas acheté et on aurait de l'argent en plus pour nous. Donc on sait que parfois, on achète simplement parce qu'il y a des promotions et c'est la société de consommation. Il faut faire très attention parce qu'on est dans un monde dirigé par l'argent, où tout est fait pour enlever tout ce qui est possible de nos poches. Et il y a des vendeurs qui savent très bien faire ça. Un autre répulsif, c'était la malhonnêteté. C'est drôle parce que le pasteur Joël en a parlé dimanche, de cette malhonnêteté. Je crois que le Seigneur voulait parler à plusieurs personnes. Et c'est clair qu'il faut faire attention à ça. On est des enfants de Dieu, on est censé marcher dans une honnêteté, une intégrité de plus en plus parfaite à la lumière et à la gloire de Dieu. Il y a un verset dans Habacuc 2:9 qui dit « Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. » Et ça, c'est les exemples de personnes qui disent « Oui, mais moi, je dois pourvoir aux besoins de ma famille. Donc, peu importe si je le fais de façon malhonnête, je vais me faire un nid sur les hauteurs pour ma famille. » Mais il ne faut pas, bien sûr, faire ça. Il faut marcher dans l'honnêteté. L'honnêteté, ça a un prix, c'est clair. Mais mieux vaut, la Bible dit, mieux vaut quelqu'un d'intègre qui peut-être va manquer pendant un certain temps que quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Parce que celui qui est intègre et qui place sa confiance en Dieu, Dieu pourra pourvoir à ses besoins et va pouvoir le faire sortir de là. On a parlé de la mentalité de pauvreté. Je vous avais donné quelques exemples de ma vie personnelle quand j'étais jeune adulte, adolescent, jeune adulte, où il y avait cette mentalité qui était là en moi. Et cette mentalité, elle est là chez beaucoup de chrétiens, entre autres à cause de l'enseignement de la religion traditionnelle sur l'argent, mentalité de pauvreté, à cause de ce que nos parents parfois nous ont inculqué, ce qu'on a vu, il y avait le manque, et il y avait cette mentalité qui était là où, il y a une expression au Québec hein, qui dit ça, c'est être né pour un petit pain, c'est ça ?
Ouais.
Ah, je deviens bon. Et ça, c'est cette mentalité, ça, faut vraiment sortir de là, il faut vraiment regarder à ce que nous dit la parole de Dieu. Et on avait vu que Jésus a parlé et a dit, voici, je vous annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'on peut sortir de situation de pauvreté et vraiment prospérer selon Dieu. La radinerie aussi, la mauvaise confession, c'est des choses qui vont éloigner la prospérité dans nos vies. Ensuite, on avait parlé des amis de la prospérité. Et bien sûr, là, on a parlé de la confession, puisque la confession, qu'elle soit mauvaise, ça va éloigner la prospérité. Mais si elle est bonne selon Dieu, bien sûr, ça va l'attirer et ça va créer dans nos vies, dans nos foyers, une atmosphère de foi où Dieu va pouvoir se manifester, où les anges qui sont des êtres pour servir les enfants de Dieu vont pouvoir opérer dans nos finances. Ensuite, on a commencé à parler du cœur du donneur et on avait vu au travers de cette femme, Marie, qui va déposer ce qui va casser ce vase et déposer ce parfum d'une grande valeur. C'était un an de salaire à l'époque d'un ouvrier moyen, donc sur Jésus. Et on voit, il y a deux attitudes. Il y a vraiment l'attitude de l'adoratrice ou de l'adorateur, du donneur en fait, qui est là pour donner, comme ça reflète simplement son cœur d'adorateur. Et il y en a d'autres qui sont là, et ça c'est les pharisiens, c'est Judas qui dit « Ah, mais pourquoi on n'a pas gardé ça ?» Et en fait, c'était pas pour le donner aux pauvres, mais c'était pour eux-mêmes, alors que même leur argent, cet argent ne leur appartenait pas. Mais ils voulaient dire leur mot. Et ça, c'est vraiment deux attitudes différentes. C'est vraiment ceux qui sont là pour donner, ils donnent au Seigneur, ils ont un bon cœur devant Dieu, et il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce bon cœur, et c'est important de savoir où on se situe. Alors aujourd'hui, je vais parler de la dîme. Donc la dîme, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément d'une manière courante dans les églises. On peut en parler peut-être ici et là, mais il n'y aura pas forcément tous les ans ou tous les mois un message là-dessus. Donc c'est important de pouvoir en parler de temps en temps. Alors qu'est-ce que la dîme ? La dîme, bien sûr, ça représente 10% de nos revenus. Donc 10% de nos revenus, il y a quelqu'un qui m'a posé, et plusieurs fois les gens m'ont posé la question, mais finalement, est-ce que je dois donner la dîme sur tout ? Alors on va voir que la dîme c'est plusieurs choses, on va voir que la dîme c'est une loi spirituelle, que c'est une loi spirituelle intelligente, que c'est une loi de protection, que c'est une loi d'amour, et que ce n'est pas une loi légaliste ou une loi religieuse. Donc déjà il faut commencer par poser cette fondation que la dîme c'est quelque chose qu'on fait par amour pour Dieu. C'est un acte d'adoration, c'est un acte de louange, ce n'est pas le paiement d'une taxe, on en parlera tout à l'heure. Donc, par rapport à ça, c'est 10% de tous nos revenus. Alors, il y a quelqu'un qui dira, oui, mais je dois donner seulement sur le produit de mon activité, selon certains versets qu'on peut voir, mais il y a aussi d'autres versets qui pourront nous parler de donner sur tout, 10% sur tout ce qu'on a reçu. On va voir entre autres deux versets. Donc, personnellement, moi, dans ma vie, depuis que j'ai 20 ans, depuis que je suis marié, on a toujours donné la dîme de tout ce qu'on avait. Il y a eu des temps, par exemple, où même j'ai été au chômage. Il y a eu un moment, à enseignement au début, où on a dû arrêter les finances la deuxième année. C'était vraiment au tout début. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui m'avait dit justement, oui, bah, de toute façon, tu n'as pas besoin de donner ta dîme sur ton chômage puisque ce n'est pas le revenu de tes activités. Et moi, je continuais à donner ma dîme sur même le chômage, sur les allocations familiales, sur les prestations des enfants et tout ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, la dîme n'est pas une loi. La dîme, c'est simplement un moyen de donner au Seigneur 10%, mais on va voir que ça peut être bien sûr plus, puisqu'on n'est pas dans cette mentalité de le paiement d'une taxe. Vous connaissez les taxes ici, TPS, GST, là, TVQ, ça c'est des taxes, c'est 9,975%, ça c'est des taxes, tu donnes selon la taxe. La dîme n'est pas une taxe, mais bon, on en parlera. C'est simplement pour dire, comme fondation, c'est 10% de nos revenus. Alors, la dîme, c'est une loi spirituelle qui n'est pas née sous la loi de Moïse, mais c'est une loi, justement, spirituelle qui n'a pas été inventée par l'homme. Une des premières fois, ou la première fois où on voit, où la Bible nous parle de dîme, c'est dans Genèse, au chapitre 14 et au verset 20. Genèse 14, 20, où là, on va voir la mention de la dîme. Avec Abraham, qui était Abraham à l'époque, avant de devenir Abraham. Donc dans Genèse au chapitre 14 et au verset 20, on voit quelque chose de bizarre lorsqu'on lit ça la première fois, avec l'histoire de Melchisédek, qui est une représentation de Christ, on le sait à cause du Nouveau Testament. Et dans Genèse 14, 20, Abraham va s'écrier. Là, d'abord, c'est Melchisédek qui va faire apporter le pain et le vin. Il va bénir Abraham. Et il écrit donc au verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et là, la Bible dit, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc là, la première fois qu'on lit ça, on se demande, mais pourquoi Abraham fait ça ? D'où ça lui est venu ? D'où ça lui sort ? Il n'y a pas la loi qui existe à ce moment-là. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Abraham a eu cette idée-là ? De donner la dîme de tout ce qu'il avait. Et on réalise qu'en fait, c'est une véritable loi spirituelle. Quelque chose qui lui avait été inculqué. C'est pas Dieu qui, en voyant Abraham faire ça, s'est dit « Waouh, c'est une merveilleuse idée, Abraham a vraiment une idée lumineuse, je vais rajouter ça dans la loi que je vais donner à Moïse. » C'est pas Abraham qui a donné l'idée à Dieu, hein, qui a enseigné Dieu, mais c'est vraiment une loi spirituelle. De la même façon qu'on voit, par exemple, Cain et Abel, on voit par exemple dans Genèse au chapitre 4 et au verset 2, on voit cette histoire de Cain et Abel lorsqu'ils vont apporter leurs produits au Seigneur. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 2, donc à propos de Ève, elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Cain cultivateur. au verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Donc là, il va apporter des fruits au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Quand on voit cette histoire, on se dit, mais pourquoi finalement Dieu a été entre guillemets injuste et pourquoi il a approuvé l'offrande d'une de ces deux personnes et pourquoi il n'a pas approuvé l'offrande de l'autre? Et là, on voit encore cette loi spirituelle. Lorsque Adam et Ève ont péché, on sait que qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu un sacrifice d'animal avec du sang qui a coulé, qui a entre guillemets comme couvert le péché. C'était une image de ce qui allait se passer au travers de Christ. Et on voit qu'ici, il y a une loi spirituelle qui parle de péché égale sang. Il faut que le sang coule. C'est pour ça que Caïn et Abel ici, Abel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un sacrifice. Parce qu'il sait que ça plaît à Dieu. Il sait que le sang, que le sacrifice, c'est quelque chose qui est d'une odeur agréable à Dieu. Il le sait parce que ça lui a été inculqué par ses parents. C'est la même chose qu'on voit avec Abraham. Il ne découvre pas ça comme ça. Ce n'est pas une idée qui lui sort de la tête. C'est parce qu'il sait. Il connaît cette loi spirituelle, de cette loi d'honorer Dieu simplement avec tout ce qu'on a reçu. On voit avec Jacob, par exemple, dans Genèse, donc un peu plus loin, au chapitre 28 et au verset 22. On voit que Jacob, à nouveau, il a cette idée qui vient, entre guillemets, comme ça dans sa tête. Mais on sait que c'est parce qu'il comprend cette loi spirituelle. Cette loi spirituelle, elle était là. Rappelez-vous qu'on était à une époque où les lois spirituelles de Dieu se transmettaient de voix, donc on se parlait, c'était pas écrit, on se parlait, c'est comme ça que l'enseignement venait. Dans Genèse 28, 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » La même façon qu'on a vu dans Genèse 14, 20, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, les deux fois où on voit où il est parlé de la dîme, il est parlé de la dîme de tout. C'est vraiment une loi spirituelle qui traverse les alliances. Quand on parle de loi spirituelle, on parle de loi qui traverse les alliances. Par exemple, la loi du sacrifice a traversé les alliances. Elle a passé toutes les alliances jusqu'à même la nouvelle alliance où Christ est mort pour nous. C'est la loi parfaite et aujourd'hui, quand un homme vient au Seigneur, il vient au travers de qui? Au travers de quoi? Au travers du sang de Jésus-Christ. Donc cette loi spirituelle fonctionne toujours. Aujourd'hui, en 2015, la loi spirituelle de sacrifice du sang de Jésus-Christ, elle fonctionne. De la même façon, la loi de la dîme, elle fonctionne. C'est une loi spirituelle. C'est pas une loi de la loi de Moïse, une loi légaliste, une loi religieuse, mais c'est une loi spirituelle. Et une autre chose qu'on peut dire sur cette loi spirituelle, c'est que c'est une loi spirituelle intelligente. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais moi, je peux pas donner la dîme parce que je gagne tel salaire. Mais ce qui est bien avec cette loi spirituelle, c'est que c'est un pourcentage. Donc, que quelqu'un gagne beaucoup ou que quelqu'un gagne peu, tout le monde peut la donner. Si Dieu avait dit, vous me donnerez 500 dollars ou 500 euros ou 500 je ne sais quoi, on se retrouverait confronté à un problème. Les pauvres ne pourraient pas donner facilement et pour les riches, ce serait facile. Dieu n'a pas été injuste, il a été intelligent, il a formulé une proportion. Un pourcentage, 10%. Et on réalise que 10%, c'est le plus bas chiffre dans les dizaines sur les 100. Donc Dieu a choisi vraiment quelque chose simplement, c'est pour nous mettre à l'épreuve. C'est pour voir qu'est-ce qui est dans notre cœur. Et on va en reparler aussi. Alors il y a quatre façons de donner la dîme. On voit quatre façons de donner la dîme dans l'Église. La première façon, c'est un acte religieux. De la même façon qu'il y a des gens qui vont à l'église, et vous en connaissez peut-être, simplement parce qu'il faut aller à l'église, qui prient avant de manger parce que, entre guillemets, il faut prier avant de manger, il faut lire la Bible, il faut ceci, il faut cela. Il y a des gens qui font des choses par automatisme religieux. Ça, c'est une façon avec laquelle les gens donnent leur dîme. Alors, je ne parlerai pas de façon légaliste, parce que, comme on l'a dit, la dîme n'est pas née sous la loi. Donc quelqu'un ne peut pas donner d'une manière légale, ce serait plutôt une manière religieuse de voir la dîme, où je donne parce que c'est la religion, je donne simplement. Il y a une proportion de gens qui vont donner la dîme de cette façon-là, ils vont la donner d'une façon religieuse simplement, parce que pour eux, la dîme c'est lié à une loi religieuse, ils doivent simplement donner la dîme. Ils ne savent pas forcément pourquoi ou comment, Il ne la donne pas forcément avec joie, il la donne simplement parce que c'est une loi religieuse. Ça, c'est la première façon de donner. La deuxième façon de donner la dîme, c'est le paiement d'une taxe. Il y a des gens qui payent la dîme comme on pourrait payer une taxe. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais employé le terme, par exemple, de payer la dîme, parce que pour moi, ce n'est pas, c'est pas une taxe ou un paiement, même si on pourrait l'utiliser d'une manière juste du vocabulaire. Mais il est mieux de donner, de parler de donner la dîme ou de semer sa dîme. D'ailleurs, le terme de payer la dîme dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Ce n'est pas payer, ce n'est pas le mot payer qui est donné. Donc, il y a des gens qui payent la dîme. Ils payent la dîme, pour eux, c'est cette mentalité, ben voilà, ben Dieu m'a demandé, vraiment, je dois le faire. Si je veux être agréable à Dieu, je dois le faire, je suis obligé de le faire. Donc ça, c'est une deuxième façon de donner. Il y a un troisième type de personnes qui vont donner la dîme comme un acte d'obéissance. C'est des gens qui ont un bon cœur, et c'est beaucoup de gens, qui vont donner la dîme. Moi, je crois que c'est vraiment une loi spirituelle. Alors, je vais donner ma dîme d'un bon cœur pour obéir à Dieu. J'obéis à Dieu, je suis dans cette perspective d'obéissance à Dieu. Et il y a un quatrième type de personnes qui vont donner la dîme par amour. C'est des gens qui donnent, oui, ils donnent par obéissance, oui, ils comprennent que ce n'est pas une loi religieuse, ils comprennent que ce n'est pas le paiement de taxes, mais quand ils donnent la dîme, c'est vraiment une expression de leur amour pour Dieu. C'est plus qu'un acte d'obéissance. Vous pouvez, par exemple, obéir à vos parents, mais sans le faire par amour. Vous pouvez aller ranger vos affaires dehors parce que vos parents vous ont demandé de les ranger, mais vous ne le faites pas par amour, vous le faites simplement, bah, je dois obéir à mes parents. Quand vous le faites par amour, c'est totalement différent. C'est pour ça que la Bible dira que quand on donne, de le donner avec joie. Parce que c'est difficile de simplement obéir avec joie quand ce n'est pas fait avec les sentiments qui vont avec. Donc ça, c'est le quatrième type de personnes qui vont donner la dîme. C'est une expression de mon amour pour le Seigneur Jésus, pour Dieu. C'est je donne ma dîme d'un bon cœur parce que j'aime le Seigneur. Je veux vraiment t'honorer, Dieu, dans mes finances. Ça, c'est quatre façons de donner la dîme. Alors, une chose aussi qu'on peut dire sur la dîme, c'est que c'est une loi spirituelle de protection. Une loi spirituelle de protection, et on peut bien sûr aller dans Malachie au chapitre 3 et au verset 7. Malachie chapitre 3, verset 7. Alors je sais qu'il y a des ennemis de la dîme dont on va parler tout à l'heure et qui vont dire « Ah oui, Malachie, c'est l'Ancien Testament. » Mais rappelez-vous que Jésus est venu justement dans cette ancienne alliance. Donc si on disait ça de Malachie, on devrait le dire de tout l'enseignement de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection où on parle encore ici de l'Ancienne Alliance. On devrait rejeter tout ce qu'a dit Jésus. Ici, dans Malachie au chapitre 3, au verset 7, on voit Dieu qui va parler à son peuple Israël, oui. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un être humain peut-il frustrer Dieu ? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré ? C'est soit la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. » Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Là, on voit Dieu qui est fâché après son peuple. Et pourquoi ? C'est un peu étonnant, mais on voit que l'argent pour Dieu et la façon dont on va donner l'argent à son royaume, ça a une grande importance dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, dans aussi le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre dira « On ne se moque pas de Dieu concernant les finances. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Donc, on ne peut pas dire que Dieu s'en fiche de l'argent ou que Dieu n'a rien à dire à propos de l'argent ou que, de toute façon, que je donne à Dieu ou pas, Dieu connaît mon cœur, comme quelqu'un m'a dit un jour. Non, Dieu connaît notre cœur, oui, mais notre cœur va justement manifester quelque chose. Je ne peux pas avoir un bon cœur sans manifester quelque chose de bon. Hein, c'est l'histoire de l'arbre et de ses fruits. Donc là, Dieu est en colère. Pourquoi ? Parce que ce peuple ne donnait plus leur dîme, il n'y avait plus vraiment de manifestation de leur amour pour Dieu, et il y avait vraiment la maison de Dieu qui avait été complètement délaissée. Et bien des fois dans l'Ancien Testament, on voit par exemple que les Lévites, à qui devaient être soutenus par le peuple d'Israël, des fois on ne les payait pas, les sacrificateurs, personne n'était là pour s'occuper d'eux. Et on voit qu'à bien des occasions, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu a été complètement délaissé. C'est pour ça que Jésus disait « Cherchez le royaume de Dieu premièrement ». Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Toutes ces choses, on sait que ça fait partie aussi du pourvoiement, en tout cas de nos besoins. Et on voit une promesse de la part de Dieu qui nous dit qu'en fait, si on apporte la dîme, il va faire une chose, c'est qu'il va ouvrir le ciel. Et ce n'est pas de façon imagée seulement, c'est qu'on va voir financièrement quelque chose de bon dans nos vies qui va nous amener dans un pays de délices. Et à cause de cela, Dieu dit au verset 11 que pour nous, il va menacer celui qui dévore. Et c'est pour ça que la dîme, c'est vraiment une loi spirituelle de protection. Lorsque je donne ma dîme et que je peux passer par un temps difficile, je peux parler sur mes semences. Je peux parler sur mon obéissance. Je peux rester dans ma position d'autorité parce que le diable ne peut pas me dire, ne peut pas venir devant moi, comme rappelez-vous avec cette image, hein, avec le sacrificateur Josué qui était là en vêtements sales et le diable commençait à l'accuser. Je me retrouve pas dans cette situation. Parce que j'étais obéissant à Dieu et je peux parler à Satan, je peux parler à mes circonstances en disant « Non, vous ne pouvez pas demeurer dans ma vie parce que j'ai marché dans les principes de Dieu. » Et là, vous êtes dans une position de force et d'autorité. Et d'ailleurs, dans la prière aussi, ça vous fait rester dans cette position d'autorité par rapport à vos finances. Quand vous désobéissez aux lois spirituelles de Dieu, vous n'êtes pas dans une position d'autorité. Là, la repentance vous ramènera dans cette position, mais il y aura aussi tout un rétablissement qui va prendre du temps. Quand vous marchez avec le Seigneur au niveau des finances, il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, comme on l'avait dit. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre et de réaliser de plus en plus la loi spirituelle de la dîme, c'est vraiment une loi de protection. Alors, il y a une parenthèse à faire ici, c'est qu'il y a une chose importante. On peut pas. Il y a des gens, souvent, ça a été une réflexion qu'on a entendue à droite à gauche, c'est « Ah oui, ben moi je donne la dîme et pourtant mes finances ne changent pas. » Vous l'avez peut-être entendu ou peut-être dit vous-même. Croire que nous allons prospérer en donnant juste notre dîme, ce serait comme croire qu'on va être en bonne santé juste en mangeant. On peut pas être en bonne santé juste en mangeant, parce que vous pouvez manger du matin au soir et devenir en très mauvaise santé. Et ça a été le cas de plusieurs personnes, par exemple. Donc, de la même façon que c'est pas parce que je donne ma dîme que obligatoirement mes finances vont être parfaites selon le plan de Dieu, parce qu'il n'y a pas que la dîme, on verra qu'il y a bien d'autres choses, entre autres le travail, etc. De la même façon, je peux pas être en bonne santé juste en mangeant. Donc on pourrait se dire, voilà, je mange, je vais être en bonne santé. Non, on sait que on doit par exemple faire du sport, on doit vivre de manière équilibrée, on doit pas manger n'importe de quoi, on doit manger de façon équilibrée. On doit éviter les excès de table parce que ça va créer des problèmes dans nos vies. On doit aussi éviter les excès de famine, ne pas manger pendant super longtemps et après commencer à manger beaucoup. Ça va créer des problèmes dans nos corps. Et c'est exactement pareil avec la dîme. La dîme est une loi spirituelle, mais c'est pas la seule loi spirituelle concernant nos finances. Il y a bien d'autres choses. Dieu, par exemple, nous dira de ne pas être paresseux. Dieu nous dira de regarder à la fourmi et d'apprendre d'elle. Dieu nous dira de travailler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, la Bible dira qu'il ne mange pas non plus. Donc il y a bien des lois qui sont là et il y a des gens qui ont dit « Oui, ben moi j'ai donné la dîme mais je n'ai pas vu de changement ». Il y a aussi la loi de la foi. Il y a aussi la loi de la confession, on en a parlé. Donc toutes ces choses vont ensemble. Mais chacune est utile et chacune a sa place. Donc c'est important d'être vraiment équilibré par rapport à ça. Et en venant là ce soir, je pensais simplement à des choses importantes en voyant les gens comment ils conduisaient. Il y a un monsieur qui était devant moi, il conduisait n'importe quoi, un gars qui vend des pizzas, il roule toujours très vite. Et je pensais à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la patience, la sobriété dans sa conduite. Ça, c'est des choses importantes. Quand on parle de finances, d'une manière générale, c'est vraiment trois choses qu'on devrait retrouver dans nos vies. C'est la maîtrise de nous-mêmes, on en avait parlé par rapport à la convoitise. C'est la patience, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour prospérer, et la prospérité, ça va couler de plus en plus dans nos vies. On va parler des stades, si on en a le temps aujourd'hui, sinon ce sera la semaine prochaine, des stades et des phases financières dans nos vies. Mais il faut vraiment être patient. Ça, c'est important. Ça va nous éviter des problèmes, ça va nous éviter des dettes. Et il faut être sobre aussi. L'apôtre Paul disait d'être sobre en toute chose. Et c'est important que dans nos finances aussi, on soit sobre. Ça nous évitera des problèmes. Ça nous évitera aussi parfois d'être une occasion de chute. Et la sobriété, la même manière que lorsqu'on conduit notre voiture, on a besoin d'être sobre pour éviter des accidents, pour avoir le temps de bien regarder les choses et de bien regarder peut-être des événements qui nous seraient contraires et qui pourraient nous amener à aller dans le fossé. C'est exactement pareil concernant les finances. Il faut être sobre. Il y a des choses qui doivent être faites au bon moment, dans le bon temps. Et ça, on a parlé de la dernière fois de la sagesse et de la direction du Saint-Esprit aussi dans nos achats. Alors, la dîme consacre aussi le reste de nos finances. La dîme, c'est 10% qu'on donne à Dieu, ça va consacrer les 90% restants. Lorsque je donne mes 10%, les 90% qui restent sont consacrés à Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu. Dans Romains au chapitre 11, au verset 16, Romains 11, 16, ça nous parle de l'élection des païens avec le peuple d'Israël. Il y a un verset intéressant où il est écrit « Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Lorsque la racine est sainte, tout le reste l'est aussi. Lorsqu'on demeure en Christ, on peut demander quoi que ce soit, on l'a reçu, et que ces paroles demeurent en nous. Quand l'arbre est bon, Jésus dit, les fruits seront bons. Et quand donc cette racine, ça veut dire cette loi spirituelle, on fonctionne dans cette loi spirituelle, tout le reste est pur et tout le reste est bon. Tout le reste est consacré. Et ça, c'est une chose importante aussi, c'est que la dîme consacre le reste de nos finances, les 90% que Dieu nous donne et il nous permet d'administrer ses finances. Autre point, c'est que la dîme se donne avant toute chose. Pas à la fin de toute chose. La dîme, c'est premièrement. Donc la dîme se donne avant toute chose, pas à la fin de toute chose. Il y a un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 16 qui parlait d'une collecte en faveur des saints et on voit le principe qui est là. 1 Corinthiens chapitre 16. Vous avez peut-être fait cette expérience un jour, vous vous retrouvez en début de mois où vous venez d'avoir votre salaire, il y a les factures qui arrivent, vous payez les factures, vous dépensez, etc. Et à la fin du mois, vous vous retrouvez à l'église et vous vous dites « Ah mince, j'ai pas donné ma dîme ». Et là, vous dites « Ah oui, mais j'ai pas de quoi la donner ». C'est parce qu'on a fait les choses d'une manière inversée. Et c'est important de donner premièrement notre dîme. 1 Corinthiens 16, 1, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc selon la proportion de sa prospérité. Et là on voit que chacun de vous, le premier jour de la semaine. Et ça c'est vraiment toujours dans cette même perception, par rapport à la dîme et aux offrandes, qu'on donne au Seigneur en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. On pourrait voir pas mal d'autres passages, mais bon, on ne va pas prendre le temps pour ça. Alors, dans Matthieu 23, 23, il y a un autre passage où là, il y a les ennemis de la dîme qui ont pris entre autres ce verset-là pour dire « Oui, mais Jésus a contredit la dîme. Jésus a dit qu'il ne fallait pas la donner. » Et ils prennent le passage de Matthieu 23, 23, pour dire que Jésus a désapprouvé la dîme, en parlant aux pharisiens. Et on connaît ce passage où Jésus va leur dire « Malheur à vous, pharisiens hypocrites ou spécialistes de la loi, parce que vous versez la dîme de la menthe, ici le terme versé, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas le terme payé littéralement, vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans les commandements, la justice, la bonté et la fidélité. » Alors là, on voit Jésus qui s'adresse aux pharisiens et comme à son habitude, il s'adresse à eux de manière assez brutale. Parce qu'en fait, à chaque fois, ces gens manifestaient quelque chose qui n'était pas le fruit de ce qu'il y avait dans leur cœur. Par exemple, un jour, Jésus va les traiter de sépulcres blanchis. Jésus va leur dire, à l'extérieur, vous êtes très très beau, bien habillé, tout ça, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de toute espèce de méchanceté. Jésus était vraiment très très dur avec eux. Et ces gens, effectivement, ils reflétaient quelque chose à l'extérieur qui n'était pas le fruit de ce qui était à l'intérieur. Ils disaient, vous faites pour l'apparence de longues prières, vous faites des phylactères, je ne sais plus c'est quoi le terme, sur vos vêtements, etc., des franges de vos vêtements. En tout cas, il brisait tout ce qui était religion et tout ce qui était paraître. Et ici, ce qu'il va briser, c'est que ces gens donnaient la dîme de la menthe et ils venaient ici, vous savez, et c'est vraiment le problème en fait d'Ananias et de Saphira. Qu'est-ce qui a valu la mort d'Ananias et Saphira? Bien sûr, c'est qu'ils ont menti au Saint-Esprit, mais c'est qu'ils n'étaient pas obligés de donner l'argent du champ qu'ils avaient vendu, ils n'étaient même pas obligés de donner quoi que ce soit comme argent en offrande en plus. Mais ils se sont concertés et pour paraître, donc avec la même mentalité religieuse, parce que ça c'est vraiment la religion, le paraître, ils se sont dit on va donner, mais on va garder une partie du champ et on va donner, on va bien montrer qu'on est en train de donner. Et vous rappelez-vous qu'ils amenaient ça au pied des apôtres. Donc ce couple-là, ils se sont concertés et ils se sont dit on va faire belle image et on va donner notre champ en disant qu'on a donné tout le prix du champ. Et c'était vraiment ce qui les a motivés, c'était de faire croire quelque chose qui n'était pas dans leur cœur. Et c'est ce qui se passait avec ces pharisiens. Ils apportaient la dîme de leur menthe, ils apportaient la dîme de la nette et du cumin, et ils voulaient démontrer, regardez comme nous sommes religieux, regardez comme nous sommes saints, regardez comme nous faisons bien les choses. Et c'est ça que Jésus a critiqué, avec le fait que, malgré toutes ces choses-là, ils ont délaissé ce qui était le plus important, c'est-à-dire la justice, la bonté, la fidélité. La Bible dira que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, entre autres, par le Saint-Esprit. Donc, selon Dieu, ce qui est important, premièrement, ce n'est pas l'argent, puisqu'on a déjà dit, Dieu n'a pas besoin d'argent. Ce que, par exemple, il y a dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 58, où quand Dieu va parler du jeûne, il va parler du type de jeûne que Dieu agrée. Et il va dire au peuple d'Israël, mais vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de vous priver, de prendre le sac et la cendre. Et il dit, mais est-ce que c'est là le jour qui est agréable à Dieu? Alors qu'à côté de ça, vous délaissez les pauvres, vous ne faites aucune justice et tout ça. Dieu est intéressé à l'amour. Et Dieu est intéressé, oui, à ce qu'on l'aime, mais ça va se manifester sur les gens. Et ça va amener une justice, ça va amener de la bonté, de l'amour, et ça va amener de la fidélité, de la foi. Et donc, dans ce que Jésus a dit aux pharisiens, il va terminer en disant, c'est cela qu'il fallait pratiquer, donc la justice, la bonté et la fidélité, sans négliger le reste. Donc Jésus n'a pas désapprouvé le reste, c'est-à-dire le paiement, entre guillemets, parce que pour eux c'était leur mentalité, de la dîme sur tout ce qu'ils avaient. Jésus ici ne désapprouve pas, au contraire il approuve. Mais par contre il approuve la bonne façon de faire. La bonne façon de faire selon Dieu. Alors oui, il y a des ennemis de la dîme, effectivement, et quand on, rappelez-vous cette histoire avec justement cette femme qui était là et qui a donné ce vase et ce parfum de grand prix, il y a une chose intéressante que Jésus a dit, quand les gens vont commencer à parler contre elle, il va dire, ne faites pas de la peine à cette femme. Ne faites pas de la peine à cette femme. Et ça, par rapport à la dîme, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent contre ça et qui se lèvent vraiment contre les gens qui donnent la dîme. Et c'est vraiment ce que j'ai eu sur mon cœur en écrivant ces derniers mois par rapport aux finances, à la façon dont on peut aimer Dieu avec notre argent. C'est vraiment dans le cœur de Dieu, je crois, où Dieu dit « ne faites pas de la peine à cette femme ». Souvent, les gens sont attaqués parce qu'ils donnent la dîme et il y a tout un tas de gens, des ennemis de la dîme, qui vont écrire, qui vont parler, qui vont prêcher contre la dîme. Et là, le cœur de Jésus, c'est vraiment « mais ne faites pas de la peine à ceux qui donnent leur dîme ». Parce que ce n'est pas du tout dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas du tout dans la pensée de Dieu de faire du mal à ceux qui donnent. Mais au contraire, quand Dieu voit quelqu'un qui donne, même si quelqu'un donnait d'ailleurs maladroitement, le cœur de Dieu est béni. Et c'est vraiment dans le cœur de Dieu, et c'est vraiment cette mentalité, quand on voit cette femme qui est là et qui donne tout ce qu'elle a, cette mentalité religieuse qui est là pour frapper, qui est là pour accuser, et la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité de Jésus, mais ne faites pas de peine à cette femme. Elle a donné d'un bon cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont là à prêcher contre la dîme, à parler contre la dîme, à chercher toutes sortes de versets contre la dîme. Et est-ce que c'est leur argent qu'on est en train de donner? Non, c'est notre argent. Et de la même façon, l'argent que cette dame est en train de donner, parce que ça représentait de l'argent, un an de salaire, ce n'était pas l'argent ni de Judas, ni des pharisiens. Et pourtant, il parlait de l'argent de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est qui parle de l'argent des autres? En général, c'est les voleurs. Et c'était des voleurs. Et donc, on n'a pas à parler de l'argent des autres, et les gens n'ont pas à parler de notre argent et de la façon dont on gère notre argent. Donc personne n'a le droit de nous dire « t'as pas le droit de donner ta dîme » ou « la dîme ceci » ou « la dîme cela ». On donne simplement parce qu'on aime le Seigneur et on est fait comme ça. Et le fait de donner notre dîme, c'est simplement la façon avec laquelle on peut honorer Dieu. Donc, on ne donne pas la dîme pour obéir à une loi. On donne la dîme parce que on aime le Seigneur. Et d'ailleurs, on ne donne pas simplement 10%. Et ça, c'est un autre point. Si on s'arrête à 10%, et j'avais parlé de la mentalité de fonctionnaire, où on va donner, si on gagne par exemple 2 375 $, où on va donner 237,50 $, ça c'est la mentalité de fonctionnaire entre guillemets, et j'avais dit que c'était vraiment manquer de finesse, dans notre amour pour Dieu, et dans la façon dont on va exprimer notre amour pour Dieu. C'est vraiment manquer de finesse. Vous voyez, c'est faire le minimum. C'est OK, je dois sortir ma femme. Alors, j'avais donné cet exemple. J'ai jusqu'à 20h. Et OK, à 20h00, désolé ma femme, on n'a pas fini le dessert, mais je dois partir parce que c'est comme ça. Et ça, c'est un peu la façon dont parfois les gens vont donner leur dîme à Dieu. C'est qu'en fait, il manque de finesse. Et quand on parle d'amour, on parle de finesse. On ne peut pas aimer n'importe comment. Et on ne peut pas juste donner à Dieu la dîme. Parce que si on donne au centime près, entre guillemets, ou au dollar près, ça montre une chose, c'est qu'on est en train de respecter une loi. Et ça montre aussi ce que vous mettez sur vos chèques ou ce que vous donnez. Ça montre la façon dont vous voyez l'argent et la façon dont vous honorez Dieu avec l'argent. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, dans ma propre vie, par rapport aux gens qui seraient contre la dîme, moi, je leur dirais simplement deux choses. La première, c'est que je ne donne pas la dîme, mais je donne au moins 10% de mes revenus. Parce que pour moi, la dîme, ce n'est pas une loi, mais c'est une façon d'honorer Dieu. Donc, si je peux donner 10% ou plus, je ne suis pas en train de calculer au dollar près et au centime près ce que j'ai reçu, mais je donne à Dieu. Et dans les phases qu'on verra de notre croissance financière, eh bien, on est appelé à donner de plus en plus pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui donnent 20%, il y a des gens qui donnent 50% de ce qu'ils reçoivent, hein, en fonction de leur prospérité. Donc, on est appelé, et moi je vous encourage vraiment par rapport à ça, dans la manifestation de votre amour pour Dieu, à augmenter. On va parler de la dîme, on va parler aussi des offrandes. Mais si, par exemple, vous donniez 124,17 $, commencez à donner 125 $. Et après, commencez à donner 130 $. Et pourquoi pas 150 $. Et après, à monter à la dizaine, à monter à la centaine, et pourquoi pas à monter au millier. Et c'est simplement une façon de démontrer votre amour pour le Seigneur, une façon de démontrer notre amour pour Dieu. On n'est pas là en train de calculer. Vous savez, il y a des dames, il y a des, par exemple des patronnes, je ne sais pas pourquoi je pense à une patronne, mais c'est comme ça. Et les patronnes et calculent scrupuleusement et à la fin, elles veulent donner à leur employé vraiment, vous savez, juste le minimum et ne donneront rien de plus. Ça, c'est la mentalité d'un mauvais patron. Ce n'est pas la mentalité de vouloir honorer. Et de la même façon, comment je pourrais honorer Dieu en calculant au dollar près ou au centime près ou au sou près ce que je dois lui donner? Donc, c'était juste une pensée par rapport à ça, mais c'est vraiment important. Et la deuxième chose que je dirais à ces gens qui sont contre la dîme, parce qu'ils vont dire, la plupart de ces gens vont dire oui, c'est dans la loi, c'est quelque chose de la loi, etc. On voit pas ça dans le Nouveau Testament, etc. Et comme je le dis toujours quand je parle de la dîme, je dirais que oui, d'accord, si je veux bien me mettre en accord avec eux, mais dans ce cas-là, comme ces gens le disent souvent, ils disent on doit vivre comme dans les actes, etc. Mais c'est que dans les actes, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Donc ces gens qui parlent contre la dîme, s'ils voulaient réellement ne pas donner leur dîme, alors qu'est-ce qu'ils devraient faire pour obéir scrupuleusement à la nouvelle loi? C'est vendre tout ce qu'ils ont, aller voir un ministère, leur pasteur, et déposer tout l'argent aux pieds de ce pasteur. Et c'est ça qu'ils devraient faire, bibliquement. Il y a un autre verset qui dit, par exemple, que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc ces gens-là devraient aller voir leur pasteur, mais la plupart du temps, ils n'ont pas d'église locale parce qu'ils sont aussi en colère contre les églises et tous les pasteurs. Mais s'ils en avaient en tout cas, ou s'ils avaient une autorité spirituelle, ils devraient aller voir cette personne et dire « Qu'as-tu besoin dans ma maison? As-tu besoin de ma voiture? As-tu besoin de ma maison? Je dois, selon la Bible, parce que je veux scrupuleusement obéir à la parole de Dieu, dans Galates, qui me dit que celui à qui on enseigne doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Mais en fait, on réalise que le problème de ces gens, c'est pas que ils ont un problème avec la dîme, c'est qu'ils ont un problème avec l'argent. Et ils ont un problème avec leur amour pour Dieu. Et si on scrute réellement, et si il y en a aujourd'hui qui écoutent au travers de cet enseignement, si ils scrutent réellement leur cœur, ils réaliseront que leur problème, c'est pas un problème d'argent, leur problème, c'est un problème de cœur. Parce que obligatoirement, quand on aime quelqu'un, on veut donner. Et ça, j'en avais parlé, c'est vraiment un des fruits de la nouvelle naissance, c'est obligatoirement, quand on naît de nouveau, il y a quelque chose qui naît en nous, et c'est un esprit généreux. Ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Une chose importante aussi, mais on en a déjà un peu parlé, ça va un peu avec, c'est ne pas donner le moins bon à Dieu. Dieu mérite le meilleur. Dieu ne mérite pas le moins bon. Dieu ne mérite pas ce qui reste à la fin du mois. Oh Seigneur, tu comprends. Non, le Seigneur ne comprend pas. Donc Dieu mérite le meilleur dans nos vies. Et il faut pouvoir vraiment donner non pas le moins bon à Dieu, mais donner le meilleur à Dieu. C'est pour ça qu'il y a parmi le peuple d'Israël des gens qui avaient vraiment un bon cœur. À un moment, il y a eu une offrande qui a été faite et ils ont dû arrêter tellement les gens donnaient. Il y a des gens qui venaient, il y a des familles qui venaient, même d'une manière régulière, et ils venaient d'un bon cœur. Ils voyaient combien Dieu les faisait prospérer, leurs bêtes se multipliaient, leurs champs prospéraient. Et ils venaient vraiment, il y avait des pères de famille qui étaient là certainement, et ils s'approchaient du sacrificateur ou du prophète ou de telle et telle personne, et ils donnaient d'un bon cœur. C'était vraiment quelque chose, ça venait... Il faisait ça simplement pour honorer Dieu. Et il disait, Seigneur, je veux te donner le meilleur. Et on voit des exemples comme ça de personnages qui ont marché avec Dieu. Et on voit qu'effectivement, entre autres, on voit Abraham, Jacob, ils ont dit, je vais te donner la dîme de tout. Et on voit d'autres personnes qui donnaient tout. On voit à un moment Jésus qui est là en train de regarder la façon dont les gens donnaient, comme quoi c'est important. Jésus regardait la façon dont les gens donnaient, il voyait les pharisiens, etc. Il voyait les gens qui donnaient religieusement. Et il a vu une femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Et là encore, des gens diront, je donne des petites pièces au Seigneur parce que il y a cette femme dans la Bible qui a donné des petites pièces au Seigneur. Mais ils oublient que dans leur maison, ils ont des télévisions, ils ont une voiture, ils ont des vêtements et plusieurs vêtements. Ils ne sont pas du tout dans le cas de cette petite femme parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et donc, on voit que Jésus regarde la façon dont on donne. Et Dieu ne mérite pas le moins bon. Ça, c'est important. Un jour, j'avais entendu ça à quelqu'un qui disait de donner le moins bon à Dieu, et je lui ai dit, mais c'est vrai, c'est important de ne pas donner le moins bon. Il disait de donner le reste à Dieu. Et on ne devrait pas donner le reste à Dieu. Non, rappelez-vous, dans Philippiens au chapitre 4, on voit un principe spirituel. Philippiens chapitre 4 et verset 15. Un principe par rapport à la façon dont Dieu voit l'argent et qu'est-ce que ça fait dans le cœur de Dieu lorsqu'on donne pour son royaume. On voit verset 15 que l'apôtre Paul va parler des gens qui n'ont pas pris soin de lui ou qu'en tout cas qui leur ont donné aucun compte par rapport à ce qu'ils recevaient et donnaient. Et les Philippiens qui vont pourvoir à ses besoins à deux reprises, au verset 16. Et au verset 17, il dit « Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche c'est le fruit abondant porté à votre compte ». J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et là, l'apôtre Paul fait consciemment référence, bien sûr, à l'Ancien Testament. Et pour lui, il est en train de dire aux Philippiens et à nous-mêmes, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que de la même façon que dans l'Ancien Testament, les gens apportaient leurs animaux, et ça donnait une bonne odeur dans, entre guillemets, les narines de Dieu. C'était d'une odeur agréable à Dieu. C'était un sacrifice à Dieu. Il dit, mais de la même façon aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, votre argent, ce que vous donnez pour le royaume de Dieu, ça fait du bien au cœur de Dieu. Et non seulement Dieu va l'accepter, parce qu'il dit oui, Dieu l'accepte, mais en plus ça lui est agréable. Et ça, c'est super de se dire, mais je peux donner de l'argent et c'est agréable à Dieu. La Bible parle de afin que vous puissiez connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des choses comme ça qui sont agréables à Dieu. Il y a des choses qui sont parfaites. Cette femme qui était là, qui a donné tout ce qu'elle avait, ça a été vraiment une offrande parfaite pour le cœur de Dieu. Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Et on en avait parlé un peu de ce passage-là, où il va rattacher directement le fait de donner pour le royaume de Dieu au fait de la promesse de Dieu qui est rattachée au fait de donner, où Dieu, à ce moment-là, va pourvoir à tous nos besoins. Parfois, dans les églises, il y a des chants qui sont chantés où il y a des gens qui commencent à déclarer « Oui, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais il y a plein de promesses comme ça dans la parole de Dieu qui sont en proportion de ce qui va avec, de la façon dont on va réaliser ce qui va avec. Oui, il y a une promesse. Par exemple, il y a la promesse d'être sauvé, mais ce n'est pas sans la repentance. Ce n'est pas sans se détourner de notre ancienne vie. Oui, il y a le sang de Jésus qui est là pour nous purifier, pour nous pardonner, mais je dois demander pardon, obligatoirement. Et de la même façon, oui, il y a cette promesse que mon Dieu pourvoira tous vos besoins, mais ce n'est pas sans donner pour le royaume de Dieu. Ça va vraiment ensemble. Donc, il y a ce principe qui est important, la façon dont on honore Dieu avec nos finances, et c'est vraiment quelque chose qui est agréable à Dieu, agréable dans le cœur de Dieu. Donc, rappelons-nous en résumé qu'en gros, la dîme, ce n'est pas une loi légaliste, ce n'est pas une loi religieuse, c'est une loi spirituelle qui traverse les alliances et quelque chose qui est donné d'un cœur pur, d'un bon cœur. Ce n'est pas, oui, c'est un pourcentage, c'est 10%, mais on ne peut pas s'arrêter à un pourcentage parce qu'on ne peut pas mesurer notre amour pour Dieu à un pourcentage. Je ne peux pas dire, j'aime Dieu à 10%. Donc c'est pour ça que je ne veux pas manquer de finesse dans mon amour pour Dieu en donnant simplement 10% ou 9,9999%, mais je donne simplement d'un cœur pur, d'un bon cœur. C'est vraiment une manifestation de mon amour pour Dieu. Et quand je le fais vraiment pour honorer le Seigneur. Et on va parler aussi de s'attendre, etc. en retour, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la dîme. On pourrait encore en parler avec pas mal de passages. Mais c'était quelques points que je voulais dire concernant la dîme. Alors maintenant, les offrandes. Les offrandes et ce qu'on a appelé parfois les aumônes. Alors, oui, il y a la dîme. Il y a des gens qui ont dit, par exemple, la semaine dernière, il y avait une question qu'on a reçue à Enseignez-moi. Est-ce que je peux donner ma dîme à d'autres églises que la mienne? Alors, on donne la dîme, dans Malachie, on voit par exemple, dans la maison du Seigneur, mais en fait, la réalité, c'est qu'on va la donner là où on est nourri. Donc, si je vais dans une église, c'est là où je suis nourri. Je suis nourri par un berger, je suis avec une assemblée de croyants, une communauté de croyants, une famille spirituelle. Alors, est-ce que si je suis moi dans une famille, je suis marié à Annabelle, ma petite fille c'est Eden, est-ce que je vais donner mon argent à une autre famille? Non. Pourquoi? J'appartiens à une famille. Donc, je vais pourvoir à ma famille. Donc, c'est totalement naturel et il y a bien des choses comme ça dans la Bible. Les gens, parfois, ils vont voir, ils sont très compliqués. Alors que Dieu a mis des choses très naturelles, de bon sens par rapport à notre vie et notre vie spirituelle. Et une des choses, c'est de pourvoir à notre famille spirituelle. Donc ma dîme, je la donne dans ma famille spirituelle, je la donne dans mon église locale. Mais par contre, si j'ai à cœur de donner plus, et en fait on devrait arriver à un temps dans notre vie où on donne plus régulièrement, et on va voir qu'il y a plusieurs œuvres avec lesquelles on peut donner, c'est que je vais donner des offrandes. Alors, une offrande, c'est quoi? C'est quelque chose que je donne en plus de ma dîme pour tout type d'œuvre bonne. Et on va voir qu'il y a différents types de personnes dans la parole de Dieu envers qui on devrait semer. Et je vais les citer. Donc, plusieurs offrandes et plusieurs aumônes. Et je crois que vraiment, dans notre vie, on devrait arriver au bout d'un moment, à un temps, où on soutient plusieurs ou peut-être même toutes tous ces types de personnes. Parce que ça devrait être notre cœur. Rappelez-vous de Corinthiens 9, Dieu veut pourvoir à tous nos besoins pour qu'on ait tellement en abondance qu'on puisse donner pour toute œuvre bonne. Vous vous souvenez, on avait dit ça, pour toute œuvre bonne. Donc pour plusieurs sortes d'œuvres bonnes. Alors, les gens à qui on devrait donner un type de personne, c'est bien sûr notre famille. Notre famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, » là la Bible va donner un terme fort, « il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ça, il y a eu des gens comme ça, ils ont dit « Ah, moi, tout mon argent, je le donne aux pauvres du Bangladesh. » Et ils délaissent complètement leur famille. On voit que ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu, c'est d'abord, tu es un père, tu es une mère, tu vas pouvoir d'abord à ta famille, au tien, à ceux qui t'appartiennent. Et là, on pourrait aussi parler de la famille spirituelle. Mais donc, on peut, là c'est dans l'utilisation de nos finances d'une manière générale, on doit pourvoir aux besoins de notre famille. Ça, c'est quelque chose de clair pour nous. Alors, deuxième chose, c'est nos parents. Et là, on va peut-être plus parler d'offrande. ou de reconnaissance ou d'honneur. Dans Matthieu au chapitre 15 au verset 5, une fois encore, Jésus se fâche avec les pharisiens. Dans Matthieu 15 verset 5 et 6, eux qui voulaient toujours s'accaparer, qui voulaient toujours garder pour eux, c'était cette mentalité de pauvreté, de radinerie. Il leur dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Qu'est-ce que les pharisiens disaient ? Au moment où ils devaient apporter des offrandes à leurs parents, ils disaient, ah non, papa, maman, je suis désolé, mais cette offrande que je devais vous apporter, je vais finalement la donner à la maison de Dieu. Mais sachez bien une chose, elle n'arrivait jamais dans la maison de Dieu. Elle restait dans leur poche. Et Jésus était en colère avec ça, parce qu'une fois encore, il ne manifestait pas l'amour de Dieu et ce que Dieu demandait. Et qu'est-ce que Dieu demande ? C'est l'honneur pour ses parents. Et là encore, et ça a été pour ma propre vie une découverte il y a bien des années, où j'ai réalisé que finalement, puisque je commençais à gagner de l'argent, et que peut-être mes parents en gagnaient moins, ou alors ils allaient arriver à un temps de retraite, ou peut-être ils allaient avoir moins d'argent, il était tout à fait normal, de pourvoir aux besoins de mes parents. Et je suis dans une mentalité où je me dis, il est obligatoire que de la même façon que mes parents ont pourvu à tous mes besoins, je n'ai pas eu à travailler, j'étais là et j'ai eu la nourriture, j'étais là, j'ai eu un logis, j'ai eu des vêtements, j'ai eu toutes ces choses-là, il est tout à fait normal de pourvoir aux besoins de mes parents. Et ça devrait être dans notre mentalité de vraiment dire au Seigneur, mes pères, je veux honorer mes parents. Et comment on pourrait honorer quelqu'un sans donner à quelqu'un ? Bien sûr, il y a différents types de façons où on peut honorer quelqu'un avec des mots, avec des gestes, avec de l'affection, avec des paroles, mais obligatoirement, un jour ou l'autre, ça se verra aussi au niveau financier. Parce que souvent, c'est rattaché à ce qui est vraiment dans notre cœur. Donc, honorer ses parents, c'est quelque chose d'important. Il y a par exemple des gens qui laissent leurs parents dans des endroits mais vraiment piteux, alors qu'eux, ils vivent très très bien. Peu importe si leurs parents ne partent jamais en vacances pendant 15 ans, mais eux, ils y vont tous les 6 mois. Et c'est vraiment pas bon dans le cœur de Dieu. Dieu voit ces choses-là. C'est des choses naturelles, mais c'est des choses que Dieu voit. Et on devrait honorer nos parents. Et même si on n'a pas eu des parents faciles, il y a des gens qui ont eu des parents durs, mais ça reste que c'est une loi spirituelle. Le fait d'honorer ses parents, et même c'est un commandement de Dieu, là. Et c'est important de pouvoir de plus en plus honorer nos parents, bénir nos parents, envoyer de l'argent à nos parents, offrir des cadeaux à nos parents, offrir pourquoi pas des voyages à nos parents. De plus en plus, on devrait avoir à cœur ça. Et s'occuper bien sûr de nos parents lorsqu'ils sont vieux. Il y a certaines personnes qui vont peut-être rencontrer des difficultés, peut-être même parfois physiques. On sait que ce n'est pas le plan de Dieu, mais parfois ça peut arriver. Selon certaines situations, ben là, on devrait pourvoir à leurs besoins, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le deuxième type de personnes. Troisième type de personnes, et là, on parlerait des aumônes, parce que quand on parle d'offrande, c'est vraiment pour honorer Dieu. On le fait pour honorer Dieu, premièrement. Et souvent, on le fait parce qu'il y a eu l'intention de l'Esprit qui s'est manifestée dans notre esprit. Rappelez-vous, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît quelle est l'intention de l'Esprit, en parlant de l'homme naturel et de l'homme spirituel. La Bible dit que qui connaît les choses de l'Esprit de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de la même façon qui connaît les choses de l'Esprit de Dieu si ce n'est l'Esprit. Et on sait que le Saint-Esprit, il connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Il va nous aider par exemple à savoir comment prier. Et parfois, il y a comme ça, on passe comme ça, on peut être à l'église et paf, on voit quelqu'un, il y a un truc, une pensée qui nous vient et qui nous dit, tiens, tu devrais donner à telle personne. Ça, c'est l'intention de l'Esprit. Ça vient comme ça sur nous. Ou quelqu'un, on voit dans l'église, on le voit, je sais pas, il a des chaussures abîmées, on voit ses chaussures abîmées, et tout d'un coup, paf, on ressent, achète-lui des chaussures. Ça, c'est des choses comme ça, et c'est, on connaît quelle est l'intention de l'esprit. Donc ça, c'est plus dans la mentalité des offrandes, c'est parce qu'il y a une intention, ou alors simplement, on a eu à cœur de bénir un serviteur de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, de bénir le royaume de Dieu. Après, il y a les aumônes, où là, bien sûr, on peut toujours le faire avec ce cœur d'aimer Dieu, mais c'est plus aider les pauvres, par exemple. Donc les pauvres, c'est la troisième type de personnes qu'on peut aider. Dans Galates au chapitre 2, au verset 10, Galates chapitre 2, verset 10, où là, il y a Jacques, Céphas et Jean qui vont leur dire, et les apôtres en avaient parlé ensemble, et l'apôtre Paul dit, « Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Donc, on ne peut pas dire à un pauvre, ok, que Dieu te bénisse, retourne chez toi, etc., sans lui donner à manger, si on a de quoi lui donner. La Bible dira que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché devant Dieu. Donc, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est important de pouvoir faire des aumônes. Et là, on peut voir quelqu'un dans la rue, par exemple, dans le besoin, et simplement avoir à cœur de dire « Non, c'est vrai, je pourrais peut-être lui donner à manger, je pourrais peut-être l'amener au Subway ou je ne sais où. Un jour, je me souviens, quand j'étais petit, ça m'a marqué. Il y avait un pauvre dans la rue et ma mère lui a donné, c'était 10 francs à l'époque, et il a été tout de suite dans un café, et là j'ai voulu le suivre pour savoir ce qu'il allait s'acheter. Il s'achetait des cigarettes. Et là j'étais tellement déçu, je me suis dit ah. Et c'est important aussi avec certaines personnes, je dis pas que c'est tous les pauvres comme ça du tout, hein, mais c'est vrai qu'il y a une réalité que souvent les gens dans la rue vont utiliser l'argent d'une mauvaise façon. Donc là, faisons des choses d'une manière intelligente. Dernièrement, j'étais avec une femme et on lui a donné une carte pour s'acheter des choses au magasin métro, à l'épicerie, là. Et elle était pas contente. Elle voulait une carte pour un autre magasin où elle pouvait s'acheter d'autres choses. Elle était pas contente. Et là, j'ai réalisé que ce qu'elle voulait, c'était pas à manger. C'était autre chose, comme du tabac, par exemple, ou des choses comme ça. Proverbe 28, 27, toujours par rapport aux pauvres. Proverbe 28, 27. Et les proverbes, ça parle aussi beaucoup de finances et la façon dont on peut utiliser l'argent ou le perdre. Pour celui qui donne aux pauvres, point de disette, mais pour celui qui ferme les yeux, beaucoup de malédictions. Il y a aussi un autre verset des proverbes qui dit que celui qui prête aux pauvres ou qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Ça, c'est un verset aussi. En fait, Dieu, il aime les gens. Il faut se dire ça, c'est que Dieu, il aime les gens. Et si on a le pouvoir de donner, de bénir, et si en plus on ressent l'intention de l'Esprit en nous, ben on devrait vraiment le faire. Quatrième type de personnes, ce sont les opprimés et les captifs. Les opprimés et les captifs, et dans Psaume au chapitre 146 et au verset 7, on voit que Dieu nous demande de donner de l'argent, apparemment, puisqu'il a mis bien des paroles dans la Bible qui nous en parlent. Psaume 146, verset 7. Il est écrit « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. » Et là encore, on pourrait voir d'autres versets. Mais on voit que Dieu fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés et il délivre les captifs. Rappelez-vous que le royaume de Dieu, c'est la justice. Donc si Dieu le fait, je devrais aussi le faire puisque j'ai la nature de Dieu. Donc les opprimés et les captifs, c'est par exemple des femmes battues. Des femmes battues, c'est des femmes opprimées. Encore aujourd'hui, on me donnait un exemple d'une église qui existe à Saint-Jean, où au sein de leur église, en bas, ils ont ouvert tout un département où les gens donnent des vêtements, et il y a des femmes battues dans la ville qui viennent chercher lorsqu'elles doivent s'en aller de chez eux en urgence pour pas mettre en péril leur vie ou la vie de leur bébé, et sortent et vont dans cette église-là prendre des vêtements et tout ce dont elles ont besoin avant d'aller avec l'assistante sociale, etc. Donc ça, c'est des opprimés. Ça peut être des enfants abandonnés, par exemple. Ça peut être des orphelins. Les orphelins, on va voir que c'est encore un autre type de personnes. Mais c'est des opprimés, c'est des gens qui sont captifs. Et là, il y a des organisations qui existent. Par exemple, il y a une organisation qui existe qui s'appelle Mercy Ministries, où eux, leur ministère, c'est d'aider justement ces femmes qui ont été battues ou des femmes qui se sont droguées, qui ont été abusées, tout ça. Et ils ont un centre qui existe, ou plusieurs centres en fait, des maisons pour ces femmes-là. Et là, c'est des ministères qu'on peut soutenir parce qu'elles font partie de ces opprimés, de ces gens qui sont captifs. Il y a aussi, par exemple, les chrétiens persécutés. On peut parler de gens qui sont captifs. Ils sont persécutés, c'est des choses comme ça qu'on peut soutenir, entre autres avec Porte Ouverte. Autre type de personnes, c'est les veuves et les orphelins. Et là, il y a un verset intéressant pour les gens qui veulent être religieux. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 27. Je crois que c'est l'un des seuls passages où on parle de religion. Si ce n'est pas le seul, dans le sens d'une façon positive. La religion pure et sans tâche, donc dans Jacques 1, 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc si on va visiter les orphelins et les veuves de ce monde, ça ne va pas être sans rien, bien sûr. Hein, Jésus en a parlé, ou je ne sais plus, dans le Nouveau Testament, où tu ne vas pas dire à un pauvre, va, que Dieu te bénisse, etc., sans rien lui donner. Donc c'est aussi un autre type de personnes qu'on peut aider, ce sont les veuves et les orphelins. Là encore, il y a des gens, il y a des organismes qui existent, mais même dans l'Église, il peut y avoir par exemple des veuves. Il y a des femmes, et bon, il faut dire que la situation de l'époque aussi n'était pas la même. Quand tu étais veuve, déjà, c'est ton mari qui pourvoyait pour toi, et quand tu perdais ton mari, tu n'avais absolument plus rien. Donc si tes enfants n'étaient pas là pour pourvoir à tes besoins, tu étais absolument sans rien. Et aujourd'hui, bon, il peut y avoir quand même une certaine réalité de femmes qui ont perdu leur mari et qui se retrouvent avec soit des dettes, soit des problèmes financiers, soit elles ne travaillaient pas. Et c'est des gens qu'on peut aider. Et dans l'Église, il devrait aussi avoir, s'il y a des veuves qui sont là et qui ont des besoins, ben on pourra avoir à cœur de les aider, par exemple. Un autre type de personne, et là c'est plus une généralité, c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu. Et dans Galates au chapitre 6 au verset 10, en fait c'est un peu le résumé de tout ça. Galates 6, 10. Où l'apôtre dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce qu'effectivement, il y a un jour, on n'aura plus l'occasion, hein, lorsqu'on sera au ciel, on ne pourra plus s'amasser des trésors au ciel. C'est vraiment le moment sur la terre de se les amasser. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et ça, c'est une réalité. C'est que, d'abord, je vais bénir le royaume de Dieu. Parce que si le royaume de Dieu est en manque, comment il pourra bénir le reste ? Donc d'abord, c'est pareil, je dois m'occuper de ma famille naturelle. Parce que si ma famille naturelle n'est pas bénie, comment mes enfants pourraient être bénis ? Comment ils pourraient être bien pour aller à l'école, etc. Et comment ils pourraient devenir un jour une source de bénédiction eux-mêmes, s'ils ne sont pas bénis aujourd'hui ? Donc de la même façon, la Bible est très claire par rapport à ça. Ok, pendant qu'on en a l'occasion, on pratique le bien envers tout le monde, mais surtout envers les frères dans la foi. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'un soutien de Dieu, et la façon dont Dieu va les bénir, souvent, ce sera au travers de nous. Donc on voit qu'il y a bien des personnes que Dieu nous demande de bénir, et on devrait vraiment s'ouvrir et sortir de cette mentalité. Oui, mais comment je pourrais donner à tous ces gens-là? Parce que je n'ai même pas assez pour moi-même. C'est un problème de mentalité. Déjà, changeons cette pensée, parce que disons plutôt, si Dieu me demande de le faire, je peux le faire. Et on commence à changer notre confession, on commence à s'ouvrir et à élargir notre cœur. Et la Bible dit, élargis l'espace de ta tente pour que Dieu puisse la remplir. Dieu ne dit pas d'élargir la tente, Dieu dit d'élargir l'espace de la tente. C'est totalement différent. Okay, je n'ai peut-être pas l'argent, Seigneur, d'agrandir ma tente, mais j'élargis l'espace de ma tente. Je commence à penser différemment, je commence à ouvrir mon cœur, je commence à ouvrir mes mains pour que tu puisses me donner, afin que je puisse donner aux gens. Alors, c'est notre appel de bénir son royaume. Et la Bible est très claire, dans Matthieu au chapitre 25, on voit que Dieu va nous récompenser pour nos bienfaits. Et ça c'est une réalité quand on parle d'argent, quand on parle de semer dans le royaume de Dieu, c'est qu'il y aura une récompense. Et on ne peut pas réaliser à quel point Dieu saura nous honorer et nous récompenser pour ce qu'on a donné ici-bas. Et ça, on est trop souvent dans le naturel, dans le terre-à-terre, et on oublie complètement qu'à chaque fois qu'on donne pour le royaume de Dieu d'un cœur pur et avec joie, on est en train de s'amasser des trésors extraordinaires au ciel. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et de la même façon que l'éternité est une réalité, de la même façon, les trésors et les richesses et la maison que le Seigneur nous prépare, c'est une réalité. Parce que dans peu de temps, très très peu de temps, on sera tous en train de jouir de ce qu'on a donné pour le royaume de Dieu et des richesses que Dieu est en train de nous préparer. C'est une réalité. Et on le sait, la vie sur cette terre est tellement passagère. C'est pour ça que l'apôtre dit, pendant que nous en avons l'occasion, profitez de toute occasion. De toute occasion pour faire le bien. Profitez-en parce que c'est le temps en ce moment où vous pouvez faire le bien et vous amasser des richesses éternelles. Et dans Matthieu 25, Jésus disait, venez vous qui êtes bénis de mon Père. C'est ce qui va se passer, imaginez, il va nous dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pourquoi on va prendre possession du royaume ? Là, Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Là, il parle de captifs. Avant, il parlait de pauvres. « J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi, etc. » Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, car on s'est occupé de son royaume, car on a eu un cœur pour donner, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des gens en ce moment, Dieu leur a préparé un héritage qu'ils ne vont jamais goûter. Il y a des gens dans le monde, pour toute personne dans le monde, il y a un héritage. Il y a quelque chose qui lui est réservé. Il y a un plan de Dieu pour sa vie. Et il y a un héritage, des choses qui lui ont été réservées. Mais ce n'est pas tous les gens qui, malheureusement, entreront dans cet héritage. Donc il y a vraiment des récompenses par rapport au fait de donner. Alors un autre type de personnes, ce sont nos enseignants et nos parents spirituels. Ceux qui nous enseignent, ceux qui nous nourrissent spirituellement et nos parents spirituels. Dans Galates au chapitre 6 et au verset 6, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, Galates 6, verset 6. Et comme je le disais la dernière fois, c'est un verset sur lequel je n'ai jamais entendu prêcher dans les églises, parce que souvent les pasteurs n'oseront pas en parler, en tout cas faire tout un message là-dessus. Donc dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part, ça c'est dans la version Summer, c'est intéressant aussi de voir plusieurs versions pour ce verset-là, donc donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit, donc pour le royaume de Dieu, moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit, la vie éternelle. Donc, c'est une façon avec laquelle on va être récompensé. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. De quoi l'apôtre Paul est en train de parler ici ? D'argent, de soutien financier. Il ne parle pas d'autre chose. Et de quelle récolte il est en train de parler ? Aussi d'argent, de finances et aussi de récompenses célestes. Donc il est très très clair, si on traite le royaume de Dieu et Dieu avec mépris, parce qu'on méprise ses serviteurs, on aura une récolte. Et j'ai vu des gens, par exemple dans des églises où j'ai été auparavant, ou des choses que j'ai vues à droite et à gauche, qui ont déshonoré les serviteurs de Dieu. Et parce qu'ils ont déshonoré les serviteurs de Dieu, ils se sont retrouvés dans des problèmes financiers terribles. Et il y a eu de ces gens qui ont dit, comme je l'avais dit, partagé la dernière fois, qui ont dit, bah, nous, on veut vraiment garder notre pasteur dans l'humilité, alors on va lui donner vraiment le strict minimum. Et on avait vu que l'humilité, ce n'était pas la pauvreté, puisqu'il y a des pauvres qui sont totalement orgueilleux, il y a des riches qui sont orgueilleux aussi, il y a des pauvres et des riches qui sont humbles. Donc, ce qui est clair, et ça dans le royaume de Dieu, c'est une réalité, c'est que ce qu'on sème, on le récolte. Il y a des gens qui disent parfois, ah oui, mais toi, tu es en train de prospérer parce que tu as ceci dans la vie, ou parce que tu as cela dans la vie, ou parce que tu as cela dans la vie. Parfois oui, mais parfois non. Parfois ce sont des gens simplement qui ont honoré le Seigneur. Et je connais des personnes qui sont en train de prospérer aujourd'hui parce qu'elles ont vraiment mis le royaume de Dieu en priorité, et parce que ce sont des gens qui, chaque mois, régulièrement, elles sèment dans le royaume de Dieu. Et rappelez-vous ce que le pasteur Fofi me disait à Montréal. Il disait, quand je ferme ma main, je ne peux plus recevoir. Mais quand j'ouvre ma main pour donner, alors je peux recevoir de Dieu. Et ça m'a marqué, ça résume un peu tout. C'est qu'effectivement, quand on donne pour le royaume de Dieu, Dieu nous donne en retour. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce sont des lois spirituelles qui fonctionnent. Il faut les donner, faut les faire fonctionner d'un cœur qui est pur. D'un cœur qui est bon, simplement parce qu'on aime le Seigneur et on aime son royaume. Et un autre passage dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 8, où il va nous parler, l'apôtre Paul ici va parler des serviteurs de Dieu qui doivent vivre de l'Évangile. Et là encore, il y a des ennemis de l'Évangile qui pensent être des amis de Dieu, qui se sont levés contre les serviteurs de Dieu en disant « Mais pourquoi vous faites des offrandes ? Mais pourquoi vous vendez des livres, ou pourquoi vous faites ceci et cela, pourquoi vous réclamez ceci et cela. La Bible est très très claire et elle dit que celui, on peut voir au verset 14, quand même c'est une règle de Dieu, de même aussi le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est une règle établie par le Seigneur. Et dans l'histoire de l'Église, les églises et les croyants qui déshonoraient leur pasteur, ce sont des églises qui ne prospéraient pas, ni spirituellement, ni physiquement. Et au contraire, les gens qui souvent bénissaient et honoraient leur pasteur, c'était des églises qui prospéraient. Et par exemple, il y a un homme de réveil qui s'appelle Finney, qui était un homme de réveil. Lui, c'était les âmes, c'est vraiment les âmes, le réveil, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Mais il disait qu'à plusieurs reprises, il a été dans des églises où les gens, justement, méprisaient le pasteur, où ils ne versaient, par exemple, pas de salaire au pasteur, et il leur disait, mais vous ne voyez pas d'âme sauvée parce que vous êtes en train de mépriser votre pasteur. Et il disait, donnez un salaire à votre pasteur et vous verrez que le réveil va éclater. Et à plusieurs reprises, les gens ont soutenu financièrement leur pasteur et le réveil a éclaté. Pourquoi ? C'est parce que Dieu ne peut pas bénir là où il y a un déshonneur. Et ça, c'est clair. C'est une règle dans la parole de Dieu. Et on voit que, au travers, par exemple, de l'Ancien Testament, les Lévites, ici, ils parlent dans Corinthiens 9, de, par exemple, de ceux qui remplissent les fonctions sacrées qui sont nourries par le temple, que ceux qui servent à l'autel aussi ont part à ce qui est offert sur l'autel. Ce sont des lois spirituelles, là aussi, qui fonctionnent dans tous les âges. Ça a traversé les alliances. Cette loi spirituelle que ceux qui vivent, qui travaillent et qui annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Et bien sûr, il y a une façon de le faire. Là, c'est un autre sujet. Il y a une façon de le faire qui doit être une bonne façon. Alors donc, ça nous amène à un autre type de personnes, c'est les ministères d'une manière générale. Donc de soutenir par des offrandes, donc pas par la dîme, mais par des offrandes, les ministères d'une manière générale. On pourrait parler des lévites, des sacrificateurs. Et là, je vais donner plusieurs versets. Dans Tite au chapitre 3 au verset 13, dans Tite chapitre 3 au verset 13, on voit que souvent l'apôtre Paul, il va encourager les gens à bien recevoir les serviteurs de Dieu. Il dit par exemple ici, à Tite, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand ces docteurs de la loi, ces enseignants, allaient voyager chez eux, ils devaient s'occuper de tout pour eux. Donc ils devaient les loger, ils devaient s'occuper de leur nourriture, et il fallait qu'il ne leur manque de rien. Dans 3 Jean au chapitre 1 et verset 6, 3 Jean 1, 6, c'est un autre exemple. On peut lire au verset, même à partir du verset 5. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. » C'était des frères dans le ministère. « Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Donc il y a une manière d'honorer les gens, selon Dieu. « Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. » Effectivement, lorsqu'un, par exemple, un évangéliste va évangéliser dans la rue ou quelque part, en général, il ne va pas recevoir d'offrande des incroyants. Et s'il n'est pas envoyé par l'Église, s'il n'est pas envoyé par des gens qui sont nés de nouveau, alors comment il va pouvoir annoncer l'Évangile ? Et c'est ce que j'avais dit au tout début, peut-être la première réunion, c'est que la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces gens-là, évangélistes, vont devenir des pasteurs en se disant, je vais avoir une façon de pouvoir vivre financièrement si j'ai une église, alors je pourrais peut-être aller ici et là à évangéliser, mais ce qui se passe la majorité du temps, c'est que 95% du temps, ils sont dans l'église et ils ne peuvent plus évangéliser. Parce que même l'église elle-même, ça prend toutes les ressources. Donc, il y a vraiment une manière d'honorer ce genre de personnes. Il dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et ça, c'est une chose que j'avais écrite il y a 2 ans dans le magazine d'Enseigne-moi, c'est qu'effectivement, lorsque nous sommes en train de financer les ministères, on va récolter selon la récompense de ces ministères. Et c'est ce qu'il dit ici, quand on est en train d'accueillir des gens comme ça, par nos finances, par la manière digne de Dieu, Qu'est-ce qu'on est? C'est qu'on est ouvrier avec eux. Et de la même manière que quand quelqu'un est en train de prêcher l'évangile parce qu'il a été envoyé par une église ou par un ensemble de croyants qui ont pourvu financièrement pour qu'il parte, de la même manière, il sera béni, mais la source aussi sera bénie. Donc ça, on peut être partenaire comme ça avec des ministères. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 25, Philippiens chapitre 2, verset 25, l'apôtre Paul, il en parlait régulièrement parce qu'il était bien conscient de ça. On l'a vu tout à l'heure dans Philippiens, quand il en a parlé. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc là, on voit que cette église, les Philippiens, comme on en a parlé tout à l'heure, ils ont compris cette réalité de pourvoir à ses besoins. Et au contraire, toutes les autres églises, surtout au début, elles n'avaient pas du tout compris que celui qui avait bâti leur œuvre, ou celui qui les avait peut-être même sauvés, qui les avait guéris, devait recevoir quelque chose. Ils n'avaient pas du tout compris ça. C'est au bout d'un moment qu'ils ont commencé à comprendre cette réalité. Alors, un autre type de personne, mais bon, on l'a dit tout à l'heure, c'était dans la famille de Dieu. Je l'ai dit dans Galates 6, 10. Alors, quand on parle de ministère, on parle aussi de royaume de Dieu d'une manière générale. Et un autre type, bon là, ce n'est pas forcément des personnes, mais ça peut être plus des projets. Ça peut être, en fait, c'est le royaume de Dieu d'une manière générale. On est appelé à soutenir le royaume de Dieu, donc des projets d'évangélisation et des projets d'expansion du royaume de Dieu. Donc on devrait soutenir des ministères, par exemple, d'évangélisation, que ce soit des hommes, que ce soit des organisations, mais aussi des ministères qui favorisent l'enseignement de la parole de Dieu, que ce soit des hommes, que ce soit des organisations. Ça, c'est vraiment important de mettre en priorité le royaume de Dieu et d'avoir vraiment un cœur ouvert pour cela. Alors, juste encore quelques minutes, je vais donner quelques petites règles par rapport à la façon de donner les offrandes. La prochaine fois, on parlera de l'obéissance à Dieu, des saisons financières dans nos vies. On définira chacune de ces saisons. Mais juste quelques règles, parce que là, on a parlé des dîmes, on a parlé des finances, on a des offrandes et de l'aumône. Il y a des règles quand même à respecter par rapport à tout ça. Et une de ces règles, c'est par exemple de ne jamais donner sous la pression. Ça, c'est important, ne donner jamais sous la pression. Parfois, vous savez, il y a des gens qui sont émotionnels. Ça peut être des nouveaux convertis. Ça peut être simplement des gens qui sont beaucoup dans le domaine de leurs émotions. Et vont, par exemple, dans une conférence. Et là, il y a quelqu'un qui va prendre le micro pendant le temps des offrandes et qui va leur dire comment du jour au lendemain, par exemple, leurs dettes vont s'envoler ou comment ceci ou cela, ou des gens qui savent très bien parler simplement, qu'ils aient ou pas de bons motifs. Certains en ont des mauvais, certains en ont des bons, mais il y a certaines de ces personnes qui vont faire pression sur les gens. Ah oui, maintenant il faut donner ceci, ah oui, mais là il nous manque cela. Je me souviens un jour, j'étais dans une réunion d'évangélisation en France, c'était les hommes d'affaires du plein évangile, et le monsieur a fait un appel pour les offrandes, et c'est une soirée où tu annonces l'évangile aux gens. Et il est allé compter l'argent, et il leur dit que personne ne sort de la salle, parce que je vais regarder s'il y a assez d'argent. Et s'il en manque, je vais revenir faire une offrande. Alors ça s'appelle faire des pressions sur les gens. Soit tu fais confiance à Dieu, et tu ne fais pas ça, ou soit tu ne fais rien. Parce que vaut mieux ne pas être une occasion de chute, et surtout dans des conditions comme ça où on annonce l'évangile. Alors là, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Mais donc, ça c'est une règle, ne jamais donner sous la pression. Ne vous faites jamais avoir comme ça. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Encore dernièrement, il y a un pasteur à Ottawa qui me partageait ça. Il a invité un homme de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des pasteurs, hein, parfois, qui manquent un peu de sagesse. Ils voient quelqu'un de connu et ils se disent « Ah, c'est une opportunité pour mon église », alors ils l'invitent comme ça sans le connaître. Ça, faut faire vraiment attention. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a invité ce monsieur que tout le monde disait « Ah, il est super ». Et le gars commence à bien prêcher, tout ça. Et à la fin, il commençait à dire aux gens « Ah, il faut que vous donniez 1 000 $, etc. » En gros, il est parti avec des milliers de dollars et ça a failli créer une totale division dans cette église. Parce que les gens, ils se sont dit à la fin « Mais non, en fait, je voulais pas donner ». Parce qu'ils ont agi dans les émotions et sous la pression. Ça, c'est une règle. Ne jamais donner au-delà de notre foi. Ça, c'est une autre règle aussi. Ne donnez jamais au-delà de votre foi. Vous avez expliqué un exemple personnel. Il y a quelques années où on était dans une situation financière difficile avec ma femme et où j'ai donné, même dans cette situation difficile. parce que c'était en fonction de ma foi. J'ai pas donné pour sortir d'une mauvaise situation, j'ai donné parce que j'avais à cœur de donner en fonction de ma foi. Mais si quelqu'un avait voulu faire ça, aujourd'hui il serait peut-être encore plus profondément dans les problèmes, parce que chacun donne en fonction de sa foi. Donc donnez en fonction de votre foi. Ne donnez pas au-delà de votre foi. Bon, après, si c'est des petites sommes, voilà, mais là on parle de sommes quand même assez conséquentes, où on a besoin de foi. Par exemple, il y a des gens qui font des chèques sans provision. Ah non, bah Dieu pourvoira. Ok, si t'es dans la foi, oui, Dieu va pourvoir. Je connais un homme de Dieu comme ça en Afrique. Il a prié pour que Dieu lui donne une belle voiture. Il a été voir dans un garage, et si mes souvenirs sont bons, c'était une grosse Mercedes toute neuve. Il a dit au vendeur dans ce garage, moi j'achète cette voiture-là. Il a fait un chèque, mais il n'avait absolument rien. Il a fait un chèque pour la voiture, et il était persuadé que l'argent allait venir parce qu'il avait prié avec foi. Et c'est un homme de réveil que je connais, qui a amené un réveil dans son pays. Arrivé chez lui, il y a quelqu'un qui lui avait téléphoné, et sa femme lui dit tout ça. La personne lui retéléphone et lui dit, bah voilà, j'ai envoyé, le Seigneur m'a réveillé cette nuit et il m'a dit absolument d'envoyer à, je vais pas citer son nom, mais de t'envoyer à cette personne-là une somme de X dollars. Et c'était la somme pour cette voiture. Et donc, le temps que ça arrive sur son compte, le chèque a pu être encaissé, il a eu cette sublime voiture. On a selon notre foi. Donc, ne donnons pas au-delà de notre foi et ne donnons pas des chèques sans provision si on n'a pas la foi. Alors, ne pas donner par sentiment. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, mais ne donnez pas par sentiment parce qu'on peut donner sous pression. Non, il faut absolument que tu donnes. Vous savez, il y a des gens qui sont là pour vous condamner. Si tu ne donnes pas, Dieu va être en colère contre toi. Non, jamais. Dieu ne sera pas en colère contre toi. Mais il y a aussi qui donnent par sentiment. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient parler de son organisme. Et bah, si vous donniez 5 000 $ pour ces pauvres enfants, etc. Et il y a des gens parfois qui savent bien parler. Vous imaginez, vous êtes venu en voiture aujourd'hui, mais eux, ils doivent marcher à pieds nus, sans sandales. Oui, il y a une réalité, mais ne donnez pas par sentiment. Donnez avec votre cœur. Ça évitera aussi parfois des problèmes financiers. Si vous avez beaucoup d'argent, donnez comme vous voulez. Mais si vous êtes avec un budget, c'est plutôt important de ne pas donner ni par pression ni par sentiment. Autre chose, c'est d'écouter son cœur. Ça, c'est important. Écoutez votre cœur. Il y a des fois où il peut y avoir une offrande quelque part. Il y a des églises qui font des offrandes d'une manière régulière. Il y en a d'autres qui n'en font pas forcément. Mais vous pouvez donner même quand il n'y a pas d'offrande au-delà de votre dîme. Mais écoutez votre cœur. Parce qu'il y a des temps, on en parlera dans les saisons, mais il y a des temps où c'est des temps de la semence. Et dans votre cœur, vous savez que vous devez donner. Ou alors vous visitez une église, il y a quelqu'un qui prêche, ou même des fois quelqu'un qui parle, que vous êtes dans une discussion comme ça, et il y a quelqu'un qui parle, et là vous savez, il faut leur donner de l'argent. Au tout début, Enseignement n'était pas encore créé, mais c'était vraiment au tout début, on était allé visiter avec ma femme un institut biblique en Suisse, et on avait vu un couple, et vraiment c'était une mentalité de pauvreté dans cet institut, c'était triste. Mais ce couple-là, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Et nous, on n'en avait pas beaucoup non plus. Et on avait un billet de 50 euros, dans notre voiture, et on savait que c'était le seul billet qui nous restait pour entrer et tout ça. Et pendant qu'ils nous parlaient, ils ne nous parlaient pas du tout de manque, on ne parlait pas du tout de ça, mais j'ai su dans mon esprit qu'il fallait leur donner ces 50 euros. Et j'ai regardé Annabelle, et elle m'a regardé au même moment, et savait elle aussi qu'il fallait donner ses 50 euros. On ne s'était pas parlé, mais elle avait reçu la même chose. Alors je leur ai laissé continuer avec ma femme, j'ai été à la voiture prendre 50 euros, et finalement à la fin, on leur a donné ça simplement, et ils étaient tellement, tellement, tellement bénis. On est reparti de là, et avant de rejoindre la France, on a été voir des amis en Suisse que je connais depuis que je suis petit, et ils nous ont demandé de parler d'enseigner-moi et tout ça, et ils m'ont donné une offrande, je crois que c'était de 200 euros. C'était la première offrande que je recevais. C'était 4 fois plus que ce que j'avais donné auparavant. Et ça, c'est des choses comme ça qui arrivent. Parfois, quand on écoute notre cœur, on sera surpris. On sera surpris de voir que Dieu n'est pas stupide. S'il met quelque chose dans notre cœur, c'est qu'il a un autre plan derrière. Et c'est là que souvent, on voit les plus grands miracles financiers. C'est important. Autre chose importante, c'est d'écouter son époux ou son épouse. C'est important. Parce que là, parfois, il peut y avoir quelqu'un dans le foyer qui dit « Ah non, mais moi, Dieu m'a dit de donner, tu te tais. » Non, c'est pas forcément agir avec amour. Oui, il y a parfois une autorité dans le couple, mais il est bon et il est important, et surtout dans une atmosphère d'amour, de se parler en fait avec son épouse. Et parfois aussi, ça permettra, il y a eu bien des fois avec Annabelle où on voyait quelqu'un sans même se parler, on avait à cœur de donner quelque chose. Et après, moi je donnais mon montant, et donnait son montant. Parfois c'était le même, et parfois c'était pas le même. Alors si je disais un montant et qu'il disait un autre montant, qu'est-ce qu'on a fait souvent, c'est qu'on donnait le milieu. Et comme ça, chacun est content, et on donne selon ce qu'on avait dans le cœur. C'est important d'écouter donc son époux ou son épouse. Autre chose, c'est de donner en fonction de ses moyens. Bien sûr, ça va un peu avec le fait de pas donner au-delà de notre foi, mais on donne en fonction de nos moyens. Cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait, bon voilà, mais on peut donner aussi en fonction de notre moyen. L'apôtre Paul disait que dans cette occasion présente, vous pouvez simplement donner de votre superflu, donc au-delà de ce qui est nécessaire pour vivre. Il y a des temps où l'apôtre Paul dirait, par contre, où il a dit par contre, ils ont même donné de ce qu'ils avaient pour vivre, et ils trouvaient ça super. Donc il y a aussi des temps comme ça. Mais donnez en fonction de vos moyens, à moins d'avoir une parole de Dieu là encore. Autre point important, c'est de donner avec joie. Ça c'est important, on le connaît, on le sait, mais il faut se la rappeler, parce que des fois on fait les choses par automatisme, et ça c'est facile dans les églises, de faire les choses par automatisme, c'est il faut donner avec joie. Donc vous prenez un sourire et vous dites « Seigneur, merci, parce que cet argent, c'est toi qui me l'as donné, je suis un administrateur, un gestionnaire de ton argent, tu dis dans ta parole, l'or et l'argent t'appartient, vraiment je te glorifie Seigneur, parce que cet argent, il est à toi, et je te remercie parce que tu pourvois tous mes besoins. » Là tu donnes avec joie, tu te mets dans la joie. Autre chose, c'est donner avec un bon cœur. Il y a des gens, ils donnent avec un mauvais cœur. Pour des raisons, des fois c'est bizarre, on n'y avait même pas pensé, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens par exemple qui vont donner pour la seule raison que de s'enrichir. Il y a des gens qui ont été tellement enseignés entre guillemets de donner et recevoir, ils sont dans cette mentalité-là, on ne va pas dire une mentalité américaine, mais dans une certaine mentalité où ils veulent s'enrichir à tout prix. Donc ils donnent avec de mauvais motifs. J'ai connu un homme comme ça qui se faisait appeler apôtre. Quand on entrait dans son bureau, oui, effectivement, c'était le luxe et tout ça, mais en parlant avec lui, vraiment, il y avait quelque chose qui allait vraiment, vraiment, vraiment pas. Il disait combien tous ses fils spirituels roulaient en Porsche, en Mercedes et en ceci, en cela, etc. Et vraiment, il y avait quelque chose dans mon esprit, mais ça sentait vraiment pas bon. Et il y a des choses comme ça il y a des gens comme ça, pardon, qui ils donnent, mais il y a quelque chose de pas bon. Donc, il faut savoir donner vraiment avec un bon cœur. Donner sans manipuler. On ne peut pas ni manipuler le Seigneur, ni manipuler les hommes. Les pharisiens, ils essayaient de manipuler les gens en montrant une certaine image. Il y a des gens qui veulent manipuler Dieu, ou qui veulent manipuler aussi des personnes. Je donne pour. Donne pour le royaume de Dieu, donne pour aimer le Seigneur. Ça doit être la première chose pour laquelle tu donnes. Une chose aussi importante, c'est donner en espérant, mais de ne pas donner pour recevoir seulement. Donc c'est de donner en espérant, mais ne pas donner pour recevoir seulement. Parce que la Bible dit que oui, tu dois donner en espérant. Tu dois labourer en espérant y avoir part. Donc oui, quand on donne, on ne va pas donner simplement comme ça. Oui, on donne par amour pour Dieu et tout ça, mais aussi on est en espérant parce que Seigneur, c'est une loi de protection. Et merci parce que je sais que tu vas me redonner. Celui qui arrose est arrosé. Donner pour bénir, c'est important. Je donne pour bénir. Donc ma priorité, c'est de bénir le royaume de Dieu. Donner aussi avec libéralité et générosité, pas donner le minimum. Il y a un élan du Saint-Esprit qui te traverse, ou alors il y a une offrande qui est faite, et là tu vas donner simplement le minimum. Tu cherches vraiment les plus petites pièces au fond de ta poche. Non, la Bible dit donner libéralement, donner avec générosité. Ça c'est important. Donc il y a des fois, il faut savoir donner plus. Il y a des fois on aura envie de donner 10$, peut-être faut donner 20$. Il y a des fois, on aurait peut-être envie de donner 50$. Ben c'est peut-être le moment de donner 200$. Il y a des fois, on pourrait peut-être donner 500$. Et peut-être c'est le moment de donner 1000$. Et en fait, on s'exerce à donner libéralement et avec un cœur généreux, en respectant toutes les autres choses dont on a parlé. Une chose encore importante, cinq et j'ai fini, c'est aspirer à donner. La Bible dit d'aspirer au don spirituel, mais on devrait aussi aspirer à donner. Parce que aspirer à être une source de bénédiction. Et là, on sera surpris de voir comment Dieu met dans nos mains de quoi donner. Parfois, il est arrivé dans ma vie de recevoir de l'argent de personnes, et l'argent, il arrivait dans ma main, il repartait. Et ça m'arrive parfois, et ça me bénit. Il y a quelqu'un qui priait comme ça, « Seigneur, donne-moi de quoi pourvoir aux besoins de tel serviteur de Dieu. » Et la personne recevait et donnait. Et ça, c'est super, c'est super parce que on est béni, ça me fait vraiment plaisir, merci parce que vraiment tu as eu un cœur, etc. Et en plus, tu donnes. C'est ce que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tout cas, c'est ce que l'apôtre disait. Donc, il faut qu'on aspire. Et ça, c'est des choses que je cite comme ça les unes après les autres, un peu rapidement, mais il faut vraiment méditer là-dessus. Parce qu'on devrait aspirer à devenir une source de bénédiction. Rechercher aussi où donner, dans quel terrain. On a parlé de plein de types de personnes, mais il y a peut-être un organisme, il y a peut-être une personne, il y a peut-être quelqu'un dans l'Église à laquelle Dieu voudrait peut-être qu'on donne. Donc là, il faut, oui, aspirer à donner, mais aussi rechercher. L'aspiration, quelqu'un a dit, ça se cherche. Que ce soit, par exemple, quand on prêche l'Évangile, l'inspiration, ça se cherche. On médite la parole de Dieu, on cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, etc. On cherche l'inspiration. De la même façon, on devrait rechercher où donner, dans quel terrain. Parfois, il y a des gens qui donnent pour un organisme, vous, mais ça ne vous touche pas du tout. Ou pour un type de personne, ça ne vous rejoint pas du tout. Par contre, il y a telle personne qui est vraiment, lui pour lui, il veut absolument donner pour telle tribu de l'Himalaya, dans ce village, etc., pour qu'ils aient ceci et cela, mais vous, bon, ça ne vous atteint peut-être pas forcément. Vous dites, ok, c'est bien, mais vous, c'est peut-être pour donner pour telle personne. Dans votre église, voilà, une femme, vous savez, gagne pas beaucoup d'argent, et peut-être ça vous rejoint plus, ça vous touche plus. Donc, faut savoir rechercher où donner et prier régulièrement au lieu de prier tout le temps, Seigneur, donne-moi, Seigneur, où je pourrais donner, où je pourrais être une source de bénédiction. Autre chose, donner même si l'on pense ne rien avoir, parce qu'on a toujours quelque chose. Donner même si l'on pense ne rien avoir. Faut s'exercer à donner, faut exercer nos enfants à donner. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les enfants, ils vont donner en général des petites pièces. Ils ont quelque chose à donner. J'ai peut-être que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose pour Dieu. Dieu peut faire un miracle avec. Et si tout le monde se dit, j'ai rien à donner, qu'est-ce que ça fait? Rien plus rien, ça fait rien. Autre chose, j'avais écrit une pensée du jour là-dessus un jour dans un des deux livres, celui des Proverbes, c'est donner des billets de banque. Donner des billets de banque. Moi, je ne m'occupe pas des offrandes dans l'église, donc je ne sais pas qui donne quoi. Et dans aucune des églises, d'ailleurs, où j'ai été, je m'occupais des offrandes, à part très, très, très irrégulièrement, peut-être 2-3 fois. Mais ça m'est arrivé, par contre, d'aller dans certaines églises et de voir que le panier avait l'air d'être lourd. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces dedans. Il faut savoir apprendre à donner des billets de banque. On ne donne pas le reste au Seigneur. Et une chose à dire aussi sur toutes ces offrandes et tout, c'est qu'il y a des bénéfices parfois aussi, bien sûr, naturels, on en a parlé, des choses éternelles, des choses dans la vie présente. La Bible nous dit qu'on sera béni dans l'éternité, mais aussi dans les choses naturelles, de cette vie présente. Mais il y a aussi des choses très naturelles, comme des reçus d'impôts. Et ça, au Canada et dans plusieurs pays, en France c'est le cas aussi, pas autant qu'ici je crois, mais c'est un bénéfice qu'on peut avoir dans les églises pour lesquelles on donne, avec lesquelles on a un retour d'impôt. Et ça, c'est super, hein, parce que tu donnes pour tel montant d'argent, et au début de l'année d'après, on te redonne de l'argent. Et ça, on ne va pas crêcher dessus. Et là, j'ai vu des gens qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas de reçu d'impôt parce que c'est pour le Seigneur, etc. » Oui, c'est pour le Seigneur, mais ce n'est pas parce que tu reçois de l'argent en contrepartie que c'est plus pour le Seigneur. Je connais une église en France où eux, ils ont décidé, parce qu'eux, ils étaient dans cette mentalité, « Non, il ne faut pas que ma main gauche sache ce que ma main droite fait. » Alors bon, à la fin, tu arrives à l'église et tu te caches. Il y en a d'autres, j'étais dans une église comme ça, moi on disait, les gens se disaient, mais c'était la grande question de l'église, est-ce qu'on peut faire un chèque? Parce que si on fait un chèque, il y a quelqu'un qui saura ce qu'on a donné. Donc il y a toujours un peu parfois des mentalités comme ça. Mais cette église-là, eux ils étaient dans cette mentalité, non, il ne faut pas qu'on reçoive parce que ça veut dire qu'on n'a pas donné pour Dieu, non, pas forcément. Parce qu'on doit aussi espérer recevoir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé qu'ils allaient tous déclarer ce qu'ils avaient donné, et tous les retours d'impôts qui allaient être reçus allaient être redonnés à l'Église. Ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Ça peut être une façon de faire. Ça peut être aussi pour s'acheter des vacances ou pour faire autre chose. Mais c'est aussi une bonne chose. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi donner la dîme sur ce que vous recevez des impôts. Vous pouvez donner sur tout ce que vous avez. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a des églises qui ne pensent pas à faire ça. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui pourrait bénir l'Église, qui pourrait bénir des gens. Et si votre cœur, c'est de donner et de rien recevoir, bah, vous prenez cet argent et vous le donnez à quelqu'un dans l'église ou ailleurs qui en aurait besoin. Donc voilà un peu pour les dîmes et les offrandes. Je continuerai bien comme les autres soirs, mais on va... Comme les autres soirs, j'aurais bien continué. Mais le temps avance. Mais simplement, donc c'est ça, la prochaine fois, on va parler des vœux à Dieu, mais aussi des motivations du receveur, parce que s'il y a un donneur, il y a aussi un receveur. Des manipulations aussi, il y a des gens qui manipulent. Et après les points, on va parler de l'obéissance, et comme j'ai dit là, tout à l'heure, on va parler de connaître et de respecter les saisons. Il y a des saisons dans nos vies, et plus tard, on parlera d'éduquer notre âme par rapport aux finances, la bonne gestion, comment économiser, le travail et aussi l'honneur. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vais prier. Père, je te remercie pour ta parole. Merci parce que tu nous montres dans ta parole comment on peut donner à toutes sortes de personnes et mettre ton royaume en priorité. Et on veut, on sait qu'on ne connaît pas tout, surtout, et on sait qu'on a tellement à apprendre de toi et de ta parole. Et je te remercie, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu nous montres et tu nous enseignes pour nous-mêmes, au travers de tous ces versets qu'on a lus, de toutes ces vérités qui sont là. On veut pouvoir se remettre en question et par-dessus toute chose, on veut vraiment t'aimer et te manifester notre amour aussi envers, à propos des finances, avec les finances. Et vraiment, je te demande, Père, d'illuminer les yeux des cœurs, d'ouvrir notre intelligence, de changer nos mentalités avec ta parole par rapport à l'argent. Merci parce que tu n'es pas le Dieu du manque. Tu nous as donné une bonne nouvelle pour qu'on puisse prospérer et avoir tellement en abondance qu'on est pour donner pour toute œuvre bonne. Et c'est vraiment dans cette saison-là et dans cette phase-là qu'on veut arriver. Avoir tellement en abondance qu'on veut faire une seule chose, c'est donner pour ton royaume. Père, je te remercie parce que ton royaume, c'est un royaume qui est pourvu. L'or, l'argent t'appartient. Notre source n'est pas en l'homme, notre source est en toi. Et on te fait vraiment confiance. Et comme je l'ai prié les dernières fois, Père, je proclame la prospérité divine sur chaque personne qui écoute et qui a écouté ces enseignements. Et je te remercie pour les transformations des vies, pour les changements. Parce que là où tu trouves des cœurs bien disposés, des cœurs qui sont prêts à changer, je crois aussi qu'il y a une puissance derrière ta parole pour manifester cette parole. Merci parce que cette parole, elle est puissante. Elle vient séparer ce qui est de notre ancienne vie, de nos anciennes façons de penser, et il vient nous montrer les choses parfaites en Christ. Merci Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour les changements dans les semaines à venir. Merci pour les promotions divines. Merci pour la prospérité, la croissance financière, pour les dettes qui sont petit à petit écartées, qui sont remboursées. Merci Père pour la sagesse que tu donnes à tes enfants au niveau des finances, dans leur gestion financière. Que l'argent dans les maisons et dans les foyers ne soit pas une occasion de dispute, mais qu'au contraire, ce soit une occasion de louange pour ta gloire, une occasion de joie, une occasion d'être une source de bénédiction. Père, je te remercie. Viens, s'il te plaît, parler à chaque personne, viens nous parler, Saint-Esprit, pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines. Viens nous parler et nous montrer comment on peut gérer l'argent que tu mets dans nos mains. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.